Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Espace Mondes France. Je vais être très rapide, mais je tiens à remercier, dans le cadre de l'organisation de cette journée, Nicolas Bourgmeister et Marine Ramblière pour nous permettre d'avoir justement ce moment d'échange autour des monstres, abordé par chacun, donc respectivement, leur discipline, l'histoire, la biologie. On aura aussi l'histoire des sciences, de la philosophie, et je remercie Richard Guérineau de dessiner tout, d'abord d'avoir dessiné l'affiche et le programme que vous avez entre les mains, et de dessiner ces échanges. Donc on va parler de la représentation des monstres, et après on va rentrer dans la matrice avec les homéobox, mais là je laisserai les spécialistes nous expliquer ce qu'il en est. Je fais passer, c'est un point de vue très technique, la feuille d'émargement pour les doctorants. Donc voilà, tout le monde peut signer. et voilà, donc je laisse Marine donc nous introduire cette journée. Merci beaucoup.
Alors donc bonjour à tous et merci d'être venus. Cette journée s'inscrit dans l'axe 3 de la MSHS, les frontières du corps, thématique 1, corps et BD. Nous remercions donc ses responsables, mais aussi les différents organismes qui nous ont apporté leur soutien, les laboratoires STEAM et ARMA, les ED Biosanté et Humanité, la COMU et notre hôte aujourd'hui, l'Espace Mondes France. Enfin, nous remercions les intervenants et Richard Guérineau de s'être prêté au jeu de l'interdisciplinarité. Et encore une fois, merci pour cette superbe affiche qui vraiment... parle très bien, je pense, de la journée. Je remercie aussi chaleureusement et à titre personnel toutes les personnes qui, depuis un an, nous ont fait confiance et nous accompagnent dans notre aventure. Je le dis ici, car c'est important pour un doctorant de se sentir épaulé, accompagné dans cette démarche qui est pour moi une première. Et bien qu'on nous le conseille fortement lors de notre formation, ce n'est pas une évidence. Donc encore une fois, merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus pendant cette un an, on va dire, et qu'on soit ici aujourd'hui. Donc en introduction, y a-t-il un monstre dans vos gènes, homéobox, forme et histoire du corps? Si nous demandons à 5 personnes de dessiner un monstre, nous obtiendrons 5 dessins différents. Pourtant, les 5 seront considérés comme des monstres, merci, par les observateurs, car ils seront qualifiés comme tels. Le freak, l'étrange, la normale, le hors norme, l'autre, de nombreux termes sont employés pour définir un corps monstrueux. De même, les réactions à la vue de ce corps sont diverses et nombreuses. Peur, rugée, curiosité, fascination, moquerie, etc. Tout repose sur cet instant et cette action qui est celui de la vision de ce corps. Tout se joue dans le regard du spectateur, c'est-à-dire l'œil du spectateur. La différence est regardée, observée et exposée par une majorité sur une minorité que l'on montre. Ce ne serait pas un hasard si l'étymologie communément admise au terme monstre, monstrum, proviendrait du latin monstrare, montrer. Pourtant, comme le soulignent les études respectives sur la Rome antique de Blandine Cuny-Le-Calais et de Caroline Husquin, ce terme de monstre pourrait également dériver de monere, soit avertir. Avec ce dernier terme, nous entrons dans une sphère religieuse et un système de croyance. Ce sont les prodiges, des signes, des menaces ou des messages des dieux aux hommes, annonciateurs de mauvaises nouvelles, comme par exemple la rupture de la Pax Deorum. Alors que dans un même temps, la noblesse de la société romaine raffolée de ses freak shows, et plus particulièrement des nains considérés comme divertissants, tout en ayant une fonction apotropaïque, c'est-à-dire protectrice. Des sources comme Longin, Plutarque ou Sénèque le Rhéteur évoquent l'idée d'un commerce florissant à Rome, allant même jusqu'à créer des monstres artificiels, pour reprendre l'expression de Caroline Husquin, qui s'interroge sur la probabilité de cette pratique. De manière générale, l'Antiquité n'est pas en reste sur la figure du corps monstrueux, pardon, qu'il soit réel ou imaginaire, humain ou non humain. Le corps est un inspirant même s'il est bancal. C'est un trait commun partagé par chacune des périodes historiques qui a marqué l'intérêt des contemporains et que l'on retrouve dans des pratiques, des écrits ou bien sur des représentations. La littérature, le cinéma, la science-fiction, etc. se sont imprégnés, inspirés des mythes et des légendes, et ainsi que des histoires qui ont traversé les siècles, mais c'est bien avec le célèbre roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, publié en 1818, que le monstre humain connaît un nouveau souffle. D'un gothisme certain, flirtant avec le réalisme et s'inscrivant dans le romantisme de son temps, ce roman a ouvert la voie à la science-fiction, dont entre autres la mode zombie. L'individu n'est pas né comme tel, tout du moins à sa première naissance. Si ce roman peut évoquer des questions d'éthique, d'épistémologie, de progrès scientifique et de ses possibilités, le calvinisme étant en vogue à cette époque, ce que montre également ce récit, c'est que la mort, comme l'immortalité, passe dans tous les cas par le corps. En d'autres termes, percer le secret de son fonctionnement, c'est s'assurer une durée de vie plus longue et, dans le cas de l'auteur, empêcher ou guérir de la mort. Le corps et ses possibilités ont toujours fasciné l'humain et la figure du monstre humanoïde fait office de questionnement. Pourquoi ce corps est-il différent des autres et comment ? Le problème vient du corps, mais d'où provient-il précisément ? La découverte d'un individu datant de 5000 ans avant notre ère lors d'une fouille dans le Gard, souffrant a priori de nanisme et présentant des marques de nécropsie avant l'inhumation, souligne pour Valérie Delattre l'intérêt et surtout l'incompréhension de ses contemporains qui ont mené, je cite, « une ultime investigation anatomique dans le but de comprendre l'origine de ce corps hors norme sortant de l'ordinaire ». Cependant, à chacun son époque, sa méthode d'investigation du corps. Si les premières recherches scientifiques ont d'abord expliqué la mécanique du corps, la recherche actuelle avec la découverte de l'ADN, des gènes et des chromosomes a fait une avancée dans la compréhension de son fonctionnement comparable à une étude des logiciels du corps. Les homéobox ou boîtes homéotiques sont en effet des séquences d'ADN porteuses et transmettrices d'une information essentielle dans le développement du corps, sa forme. Ce sont eux qui indiquent qu'un être humain a deux bras, deux jambes, une tête, etc. Pourtant, l'actualité avec l'affaire des bébés sans bras vient interroger une nouvelle fois les corps. Ici et maintenant, nous ne parlons plus de monstres, mais de malades ou de victimes, posant la question de l'évolution des termes en lien avec le progrès scientifique et médical. La question environnementale, désormais plus brûlante pardon, que jamais auparavant, semble être la piste la plus sérieuse. Tout ceci amène à de nouveaux questionnements, notamment sur la perception de ces individus. Savoir que le corps peut être altéré dans sa structure même à cause d'un environnement de vie pollué, peut-il changer la perception que la société porte sur ses corps et ses individus ? La science peut-elle détecter et réparer ces altérations ? De même que d'un point de vue historique, archéologique et paléopathologique, ces avancées amènent-elles à reconsidérer les malformations des anciens temps ? Souvent considérés et distribués dans les malformations congénitales, ces corps peuvent peut-être apporter des informations complémentaires sur l'environnement d'une époque, sa qualité et les conditions de vie, même si certains lieux comme les mines de cuivre et autres en Grèce ancienne ne laissent que peu de doutes sur la qualité. Comme les sciences qui interrogent le corps en cherchant à la source même, les œuvres au sens large du terme amènent également à se questionner, notamment sur les choix et répétitions observées dans celles-ci. Un âge est-il prédisposé pour être un corps monstrueux dans les œuvres ? Un sexe ? Un statut ? Le corps monstrueux est-il plutôt citadin ou bien champêtre ? Des évolutions dans les représentations sont-elles à noter ? Peut-on dire que chaque société et époque a son monstre ? Si les anciens avaient le cyclope et les sirènes, et que le 19e avait les morts vivants, donc Frankenstein, les vampires, l'entrée dans les 20e et 21e siècles a apporté quel monstre a avec eux ? Sont-ils à l'image de la bande dessinée Zombielennium, regroupée par catégories squelettes, morts-vivants, vampires, loups-garous, etc., à travailler de concert dans un parc d'attractions horrifiques, engagés, tués, transformés, pour faire peur aux autres, les humains, sans espoir de répit ni de repos éternel. Alors, de nombreuses questions sont encore envisageables et d'autres restent en suspens. Cette introduction, loin d'être exhaustive, souhaite avant tout exprimer l'intérêt de la pluridisciplinarité. Les sciences de tous bords s'influencent les unes les autres depuis toujours et apportent chacune un éclairage unique sur un sujet. Mises bout à bout, elles offrent de nouvelles perspectives et une compréhension sans cesse renouvelée. Je vous remercie et je vous laisse la suite.
Bien, donc, merci beaucoup pour cette présentation qui ouvre plein de pistes. On va tout de suite maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc j'appelle peut-être tout de suite la première oratrice. Voilà. Alors bon, donc, tout simplement en attendant qu'elle arrive jusqu'à nous, peut-être quelques mots complémentaires. Quand on m'a demandé de présider de cette séance, j'ai eu quelques inquiétudes. Je me suis regardé dans la glace pour voir si, effectivement, je présentais un certain nombre de pustules ou de déformations donc, corporelles. J'ai été un petit peu donc, rassuré. Et puis, je me suis dit que jadis, j'avais écrit un article dans la revue Ethnologie française sur les griffes du monstre. Alors peut-être que ça venait de là. Et puis, je me suis dit surtout que, bon, comme je connais assez bien donc, Nicolas, il fallait que quelqu'un pour... si je puis dire, contrôler son temps de parole tout à l'heure, et que c'était sans doute la raison et la seule que je voyais donc, à ma présence ici. Alors, simplement peut-être en attendant, puisqu'on a évoqué donc, Frankenstein, la créature de Frankenstein et Marie Shelley, Vous avez peut-être vu qu'il y a quelques temps, dans quelques années, un grand colloque à l'Université de Genève, justement sur Frankenstein, parce que Marie Shelley a publié son livre en 1818, mais elle l'a écrit en 1816 sur les rives du lac Léman. Donc là, il y avait une imprégnation, et je pense que les actes de cet ouvrage-là devraient être publiés dans le courant de l'année prochaine. Donc, voilà, je ne sais plus ce que je disais, mais peu importe. Donc, voilà, donc ça, c'était pour Frankenstein. Et donc, ces monstres, évidemment, ce qui a été dit tout à l'heure avec justesse, c'est que chaque époque, chaque société, peut-être aussi chaque groupe a ses propres monstres. Et donc, finalement, quand on arrive comme ça à détecter qui est le monstre de l'autre, voilà, c'est une voie d'accès pour mieux comprendre, donc, à ce moment-là, une société donc, et des valeurs. Celui-ci ?
C'est ça.
Ah d'accord, c'est pour ça. Et l'autre, c'était... Bien, alors donc du coup, on va tout de suite écouter maintenant donc avec grand plaisir Isabelle Jouteur, qui a publié aux belles lettres dans la collection Signée un ouvrage magnifique qui s'appelle « Monstres et merveilles, créatures prodigieuses de l'Antiquité ». C'est un recueil de textes où on voit apparaître comme ça toutes sortes de personnages et de figures monstrueuses. On a donc les chimères, les nymphes, les dragons, les méduses, et aussi ce que j'aime bien comme qualificatif, c'est les hybrides fantastiques. Voilà, donc tout un programme donc, à ce moment-là. Mais là, évidemment, dans le cadre de cette communication, il y aura une entrée donc, particulière, une focalisation sur une variété de monstres et pas la totalité de ceux que vous avez recensés.
C'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Vous m'entendez bien ?
Oui, très bien.
Oui.
Enfin, tout à moi.
Alors, je ne vais pas vous parler de génétique. Je suis antiquisante, comme Frédéric Chauveau vient de le rappeler. Et donc, j'ai choisi de vous parler, en effet, d'un seul mythe, le mythe de Scylla, que vous voyez sur l'image, et qui donc n'est pas modifié génétiquement. Alors, j'ai choisi ce mythe parce qu'il met en jeu une métamorphose d'une nymphe très attirante en monstre très répugnant. Le mythe pose la limite entre l'homme, dans sa version féminine ici, et une bascule de l'humain vers autre chose, une autre forme pensée dans les termes du monstrueux et qui recourt, pour cet exemple, à des composantes animales, ici une queue de poisson, mais il y en aura d'autres dans les images que je vais vous montrer. Donc l'une des questions centrales qui traversera, je pense, cet après-midi, chez toutes les communications, c'est celle de la limite. Où s'arrête l'humain et où commence le monstrueux ? Celle donc d'une dialectique entre l'identité et l'altérité. Est-ce qu'on est encore humain quand on est en train de se modifier ou quand on est tout simplement, si j'ose dire, différent ? Aristote avait dit que le monstre, c'est celui qui d'abord ne ressemble pas à ses parents. Donc celui qui est touché par une différence qui ne se reproduira pas. Donc en quelque sorte, une exceptionnalité à la règle biologique. Alors quand j'ai lu le programme de la journée, y a-t-il un monstre dans vos gènes ? La réaction que j'ai eue, bien humaine je pense, était celle de la fuite. Non, je n'ai pas du tout envie de découvrir qu'éventuellement je serais concernée par cela. Et l'émotion qui va avec la réaction, c'est celle de l'effroi. On souhaite plutôt ne pas du tout être concerné par cela, mais rester humain, pleinement humain, totalement humain, et que surtout rien ne bouge. Donc le monstre suscite communément ces réactions émotionnelles diverses, mais on n'a pas toujours de témoignage sur la façon dont celui qui est désigné comme le monstre, ou appelé à le devenir, se regarde lui-même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous exposer ce mythe ancien, celui de Scylla, tel qu'il est raconté par Ovide, parce qu'il intègre le regard que porte l'humain devenu monstrueux sur lui-même, et en analysant donc de quelle monstruosité on parle. Donc je me place là sur le terrain de la fiction, en tant qu'espace des possibles, qui envisage des situations inédites, hors du réel directement observable, et interroge la notion même de monstre et avec elle les valeurs d'une société et l'accueil réservé à celui qui est perçu comme monstre. Donc quand vous regardez l'image qui est là au tableau, elle peut produire malaise ou fascination, notamment pour l'hybride. Alors la littérature, précisément, les arts figurés ont inventé dans toutes les cultures des monstres de nature différente. Une typologie en a été faite par Gilbert Lascaux. Et ces produits de l'imaginaire ont aussi leur valeur heuristique, c'est-à-dire qu'ils nous donnent à réfléchir en anticipant des situations. Ils ont aussi une valeur anthropologique, on va le voir avec cet exemple-là. Souvent, ils traduisent les rêves et les cauchemars d'une société. Donc, entrons dans le mythe de Scylla. Alors, le point de départ de ce mythe, c'est la version homérique qui postule l'existence d'un monstre marin dans la Méditerranée, une pieuvre anthropophage dotée de 12 pieds, de 6 coups, de 6 têtes, de 3 rangées de dents, qui aboie comme un chien, et qui a à la place des terminaisons attendues, des pieds attendus, qui a des moignons. Alors vous voyez là une représentation qui est contemporaine, qui est tirée d'une bande dessinée, qui est censée illustrer le texte de l'Odyssée, mais on n'a pas de représentation antique qui illustre directement le texte d'Homère qui est bien connu. Donc en gros, pour Homère, Scylla, c'est ce que vous voyez au tableau avec toutes sortes de variantes iconographiques qu'on pourrait imaginer. Donc un monstre inachevé, difforme, marqué surtout par une prolifération de membres. Et donc ce monstre était posté sur le détroit de Messine, en Italie, et il avalait les marins de passage, dont les compagnons d'Ulysse dans l'Odyssée. Alors, vous voyez ici une autre représentation dans laquelle le monstre se situe dans la partie en haut à droite du tableau, tandis que dessous, vous avez le passage du bateau avec les compagnons d'Ulysse, et puis en face, le monstre Charybde représenté par un tourbillon. Et puis là, je vous ai mis simplement deux modèles iconographiques anciens sur lesquels vous voyez que le monstre est représenté toujours comme tripartite, avec une composante féminine, le buste et celui d'une femme, une composante marine, ici celle d'une grande queue de poisson, et une composante canine avec des chiens qui se situent au niveau de la ceinture de la jeune fille. Donc un monstre tripartite, et c'est cette tripartition qui va assurer la cohérence des variantes aussi bien à l'intérieur de l'iconographie que dans ce que la littérature va apporter comme témoignage sur ce mythe. Donc en gros, si je résume, d'un côté pour l'iconographie, on a une iconographie qui va représenter Scylla majoritairement sur le modèle du triton au début, et pour sa symbolique, on peut dire qu'à l'époque archaïque grecque, Scylla active des fantasmes de dévoration et qu'elle signifie en gros les dangers du monde marin sur la base d'une double métaphore. Cette métaphore, c'est que la mer est comme un animal sauvage indomptable et la mer est comme une femme. Et ce sont ces deux dangers que le monstre figure alors. Quand le monde latin hérite de la culture grecque, le regard porté sur cette créature archaïque se modifie. On invente une toute autre histoire. Le mythe fait l'objet d'un récit développé donc chez Ovide, avec un poète qui change les données initiales du mythe sous l'influence de variantes hellénistiques qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il explique que ce monstre que vous voyez est le fruit d'une métamorphose. On ne se rapproche pas encore de l'homéobox, mais enfin, on arrive vers l'idée que l'humain peut être touché par le changement. Donc, cette métamorphose, c'est celle d'une nymphe punie par Circé à l'endroit de son sexe. Donc là, on parle de l'humain pour aboutir au monstre sous l'effet d'un agent extérieur, ce sera la contamination par l'eau, comme je vais vous le raconter tout à l'heure. Donc le monstre n'est plus placé dans un ailleurs lointain et inconnu, dans les parages d'une mer dangereuse. Il se retrouve cette fois-ci à la lisière de l'humain et la victime du processus a la réaction que vous voyez sur cette gravure de 1581. Elle est absolument horrifiée de constater ce qui lui arrive. Donc la version développée par Ovide, qui raconte une histoire très développée, consiste à nous faire croire que la pieuvre gigantesque dont parle Homère dans l'Odyssée est le résultat d'une humanité devenue monstrueuse. Bon, je résume. Hein. C'est fictif, mais Ovide nous dit que c'est vrai. Alors, comment s'effectue le passage entre la version homérique et la version ovidienne, qui a l'air de ne pas avoir grand-chose avec le modèle grec ? Eh bien, il faut savoir que dans la période intermédiaire, qui est très très longue, le monstre était devenu une métaphore de la cruauté de la femme dès l'époque classique grecque. On comparait par exemple Clytemnestre, non pas Médée, mais Clytemnestre, qui tue son mari, au monstre Scylla. Voilà, c'est un exemple. Et puis, on avait aussi proposé d'autres explications. Par exemple, on avait dit on a inventé ce monstre pour figurer les dangers de la piraterie. Vous voyez, on avait rationalisé les choses, relu les mythes archaïques. Et ici, c'est une relecture humanisée du mythe qui consiste à voir dans le monstre un antécédent humain. Ce que Ovide va néanmoins apporter à ces versions rationalisantes ou humanisées des mythes, c'est l'insistance sur le moment de la métamorphose de la jeune fille, c'est-à-dire sur le phénomène monstrueux, sur le moment de transition entre un état et un autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce texte-là, parce que il y a aussi, par le biais de ce récit, une amorce de réflexion sur ce que c'est que l'autre dans le même. Hein, on en revient à cette dialectique entre l'identité et l'altérité. Donc, pour que vous compreniez les enjeux du texte ovidien, j'ai prévu de rappeler quelques significations du monstrum dans l'Antiquité, mais je vais peut-être aller un petit peu vite, puisque Marine Ramblière, tout à l'heure, nous a déjà rappelé ces choses-là. Donc, dans l'Antiquité, le monstrum est doté d'une acception religieuse forte. En réalité, le mot monstre français vient du monstrum latin, mais le mot latin vient de deux mots grecs, télor et péras. Alors, en grec, téras, c'est le signe envoyé par les dieux qui peut être, par exemple, le coup de tonnerre. Hein ? Mais aussi la créature monstrueuse, par exemple, Python. Et puis, le deuxième terme qui est moins utilisé, pélor, désigne soit le monstre de la mythologie, comme par exemple Polyphème, ou bien un animal courant comme un loup, mais pour peu qu'il ait une taille au-dessus de la normale. Hein, donc il y a la composante animale, le gigantisme et les aspects religieux. Donc on peut dire qu'en Grèce, les deux mots désignent des signes effrayants envoyés par les dieux qui provoquent une réaction de peur. Et en latin, le terme monstrum se trouve lui aussi ancré dans la sphère religieuse pour renvoyer à un prodige qui avertit de la volonté divine. À ce titre-là, on le rattache à la racine monere, comme l'a dit tout à l'heure Marine, c'est-à-dire que cette anormalité qui vient frapper le regard relaye un message des dieux ou un message de la nature et fait le trait d'union entre les dieux, la nature et les humains. Et donc, en nous avertissant, le monstre s'adresse à notre pensée, puisqu'on a là une famille étymologique qui se ramène à mens, qui a donné la mentalité, le mental. Donc, le signe implique un effort de décryptage pour celui qui le trouve sur sa route. Il donne à penser, il donne à réfléchir. Et il se rattache également au vocabulaire de la divination. À ce titre aussi, il a donné lieu à des mesures de procuratio, c'est-à-dire d'éloignement en dehors de la cité, pour prémunir la cité du danger potentiel que l'on associait à la créature autre. Le deuxième point, donc, c'est que c'est une catégorie polymorphe et hétérogène. Derrière le terme de monstrum, il faut comprendre que cela peut désigner un événement extraordinaire, surnaturel, lié à la sphère religieuse, etc. Mais c'est aussi, par métonymie, la créature monstrueuse qui apparaît. Et donc, à ce titre-là, on peut regrouper dans le même sac l'hermaphrodite biologique, le veau à cinq pattes, ou bien l'être extraordinaire de la mythologie, le centaure. Et puis, par dérivation, le monstrum s'est laïcisé pour aboutir à notre sens contemporain d'être criminel, hein, comme Médée, dont on parlait par exemple à table. Et même par extension, le terme est rattaché aussi au processus fictionnel, le fait de raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que à Rome, et là c'est une différence entre le monde hellénique et le monde romain, la latinité a introduit un changement notable avec le regard, parce que monstrum est rattaché aussi au dénominatif monstrare, qui signifie montrer, désigner, indiquer. Donc au départ, monstrare, c'était indiquer la voie à suivre, et au fur et à mesure de l'écoulement du temps, le monstre est toujours celui qui désigne, mais dans un sens qui sera affaibli par rapport à sa dimension originellement religieuse pour désigner simplement ce fait de montrer, de mettre en évidence. Donc, pour récapituler sur ce point, le monstre, c'est dans la latinité classique un signe manifeste qui touche à la fois à la nature, à la religion et à l'esthétique. Alors j'en viens maintenant donc aux métamorphoses ovidiennes et à leur signification poétique. Ovide raconte le mythe de Scylla dans son épopée des métamorphoses, dans laquelle vous pouvez lire 250 histoires de métamorphoses. C'est donc un projet inédit, tout à fait pionnier, qui raconte le passage du chaos initial du monde à la première métamorphose, qui est celle de la constitution de la Terre dans un cosmos organisé. Et puis là s'enchaînent toutes sortes d'histoires fabuleuses. Et donc la métamorphose est pensée par Ovide comme un monstrum. Par rupture de l'ordre naturel, un homme qui se change en fleur comme Narcisse, cela n'est pas courant, cela ne se voit pas dans le monde ordinaire. Et puis, la métamorphose introduit celle de l'hybride. Le changement de l'enveloppe corporelle sur laquelle Ovide va tant insister relève par ailleurs de la métensomatose. C'est-à-dire que Ovide explique que dans les changements qu'il raconte, seul change l'enveloppe extérieure du sujet, c'est-à-dire le paramètre physique, physiologique, mais l'intériorité, que vous l'appeliez l'âme, l'esprit ou la conscience, reste identique. Par exemple, l'Icaon se change en loup parce que au départ il était déjà très cruel, et le changement d'apparence va simplement signifier ou rendre visible l'intériorité de l'être. Donc là où Platon disait kalos kagatos, hein, un être beau et bon, Ovide va développer des idées différentes en insistant sur le fait que la difformité peut exister, qu'elle le touche, et que le sujet différent souffre, puisque la métamorphose est souvent dépeinte sur le mode de la transformation contrainte, subie et douloureuse, même si elle relève de l'échappatoire par rapport à une existence douloureuse. Donc ce projet poétique nous paraît peut-être aujourd'hui banal, tant la littérature s'est illustrée dans le thème de la métamorphose, mais pour l'époque, il est extrêmement novateur et même provocateur dans le contexte de la société augustéenne, dans la mesure où il remet en cause l'anthropocentrisme. Il revendique le droit du poète à se réapproprier les mythes pour les emmener dans le sens de son imaginaire et admettre à cette époque qu'un homme, par exemple, puisse se changer en grenouille, c'est déstabilisant. Et c'est d'ailleurs un mythe que l'on retrouve à Versailles, à côté, enfin dans le parc du château de Versailles, à un moment où Louis XIV joue au roi Soleil. Donc la dimension politique, potentiellement politique et subversive d'un écrit qui s'intéresse au changement potentiel de l'homme en autre chose que l'homme est extrêmement provocateur. Et donc ce thème métamorphique a pour conséquence d'effacer les frontières entre les différents règnes du vivant. Hein, on a Italo Calvino a expliqué que cette épopée instaure un régime de la continuité, de la contiguïté universelle, c'est-à-dire un monde où les êtres sont liés entre eux par des analogies, même s'il y a métamorphose et différence, au fond, on est dans un système fictionnel où on imagine que tous les êtres sont reliés les uns aux autres par-delà leurs différences. Alors on a taxé cette épopée d'épopée pythagoricienne dans la mesure où pour les pythagoriciens justement la mort donne lieu à réincarnation de l'homme avec métempsychose. Mais comme je vous l'ai expliqué, chez Ovide, il n'est pas question de métempsychose, mais de métensomatose, c'est-à-dire de changement d'apparence corporelle avec permanence de la psyché à l'intérieur d'un corps qui se retrouve figé, notamment par l'exercice de l'écriture, dans un état dont on se souvient grâce à la vertu de l'écriture. Quand on voit la fleur qui porte le nom de Narcisse, on se souvient que derrière elle, il y a l'histoire d'un jeune homme qui a été métamorphosé et l'écriture pérennise cette métamorphose-là. J'en viens donc à Sylla. Alors, quel est le profil de Sylla? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans l'Antiquité une puella dura. Quand je demande à mes étudiantes de traduire, elles me disent « Ah, bah, c'est une garce voilà, », c'est-à-dire une jeune femme qui refuse les avances de ses prétendants, finalement se retrouve donc en fait finalement une ce qu'on pourrait appeler une wirgo un peu cruelle, voilà, qui refuse de laisser place à un autre dans sa vie. Et je vous en dis pas plus pour le moment. Donc elle est amenée à rencontrer le dieu marin Glaucus, qui lui-même présente un aspect hybride. C'est un dieu poisson, donc il a un buste d'homme et le bas du corps est celui d'un poisson. Et quand Sylla rencontre Glaucus, elle se demande si elle a affaire à un dieu ou à un homme. Il y a là une question de limite qu'elle n'arrive pas à cerner. Elle découvre d'ailleurs interloquée l'incongruité de la deuxième partie du corps de son interlocuteur. Elle refuse les avances de Glaucus. Glaucus alors décide de demander de l'aide à la magicienne Circé pour obtenir l'amour de Sylla qu'il convoite. Et Circé alors s'éprend de Glaucus et tout se terminera très très mal pour Sylla. Pour Glaucus aussi d'ailleurs. Donc Circé conçoit une jalousie atroce dans la mesure où Glaucus refuse ses avances et elle décide de se venger sur Sylla en la métamorphosant en monstre. Et vous voyez que la boucle est bouclée. Sylla va donc descendre un jour dans une baie écrasée par la chaleur pour se baigner, et au moment où elle entre en contact avec l'eau qui a été souillée par les poisons de Circé, elle sent un changement opérer et elle vit cette transformation selon le scénario que je vais vous expliquer. Alors juste pour vous montrer donc les illustrations qui ont été faites de l'histoire, vous voyez sur cette gravure l'ensemble du scénario que je vous ai raconté, avec sur la partie gauche de l'image Scylla encore dans sa silhouette de nymphe qui converse avec Triton en avec Glaucus en face. Ensuite, dans le médaillon de droite, Glaucus vient demander l'aide de Circé. Et tout au fond de l'image, Scylla se baigne et lève les bras au ciel puisqu'elle est en train de se métamorphoser. Donc une image bande dessinée en quelque sorte. Là, c'est la rencontre entre Scylla et Glaucus. Le sujet a été très illustré dans la peinture européenne, là aussi. Et j'en viens donc au moment de la métamorphose. Ovide donc choisit d'insister sur la découverte progressive et horrifiée par la jeune fille de son ventre, souillé par des monstres, des chiens aboyants, et par cette altérité faisant corps avec elle. Si son corps change, la jeune fille a encore dans ce moment irréversible de l'empoisonnement sa capacité à sentir, pas encore à comprendre tout ce qui lui arrive, mais en tout cas à sentir. Elle fait alors une expérience de dissociation en refusant d'accepter l'incroyable. Donc on a toutes sortes de procédés formels sur lesquels je passe. Ces chiens qui forment avec elle une unité non désirée apparaissent devant elle en une vision cauchemardesque sous la forme de cerbères abominables. Donc Ovide engage là une poétique de la fantasia, c'est-à-dire une poétique qui tourne le dos à la mimésis, mais qui s'intéresse justement au processus métamorphique qui n'existe pas dans la réalité, pour s'engager dans une fiction d'un nouveau genre qui est rattaché justement au sème de Monstrare, qui signifie raconter des histoires qui tiennent du prodige. Alors, l'une des originalités majeures du récit d'Ovide, c'est que justement, il décrit le monstre de l'intérieur en focalisation interne. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Je n'ai pas trouvé l'équivalent dans la littérature grecque. Souvent, les monstres figurent l'altérité à abattre, l'adversaire du héros, dont la destruction consacre la valeur de l'homme. Ici, la focalisation est faite de telle sorte que le lecteur s'étonne avec Scylla de la nature de cet autre qu'elle devient. Alors, de quoi est-elle punie finalement? Enfin, quel est le sens de profond de cette métamorphose? Scylla est la victime de la jalousie de Circé, certes, mais les anthropologues qui ont travaillé sur la signification du mythe expliquent qu'en réalité, le mythe a sa cohérence et qu'elle est châtiée pour avoir été trop sauvage à l'encontre de ses prétendants. Hein? Finalement, elle, qui était semblable à un narcisse refusant de se mêler à l'autre, et souhaitant en quelque sorte en rester au statut de Virgo, va devenir brutalement chienne enragée. Et le chien, c'est un animal qui est doté de connotations sexuelles. Donc elle va basculer d'un pôle de la sexualité à un autre. Hein, elle bascule finalement de l'abstinence excessive à la libido furieuse. À ce titre, elle est l'opposé des sirènes qui sont dotées d'une queue de poisson, la fusion des deux jambes traduisant l'impossible accès à la sexualité. Donc les auteurs latins avaient très bien saisi les implicites sexuels de la ceinture de chien. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'iconographie. Et puisqu'il ne me reste peut-être que maintenant une minute trente, donc J'ai laissé de côté aussi un petit aspect du mythe qui est quand même central, que je vous ai montré sur la première diapo, celle illustrant l'Odyssée. Le monstre, vous vous en souvenez, est situé sur un détroit. On pense que cette localisation géographique est porteuse de signification également, puisque le détroit figure une division. Donc là, on a bien une histoire aussi de dissociation de la personne. Mais le détroit, c'est aussi un passage. Et là encore, l'une des interprétations anthropologiques, c'est celle qui consiste à voir dans ce mythe la métaphore d'un passage. Alors, quel est le passage ? C'est le passage devant la gueule du prédateur, pour le navire d'Ulysse. C'est aussi la transition de la jeune femme vers l'âge adulte, et le détroit va figurer justement la transition difficile parfois de la jeune fille vers la vie de femme. Alors j'en arrive donc à la conclusion. Peut-être que pour illustrer ce que je vous ai dit, alors là vous voyez c'est Champs-sur-Marne. Je vais conclure avec en laissant donc derrière moi cette photographie qui a été faite il y a quelques années, il y a 2-3 ans par un collègue qui enseigne la langue et la littérature latine en classe préparatoire à Toulouse et qui s'illustre dans une démarche de photographie érudite des métamorphoses d'Ovide. Donc c'est l'illustration qu'il donne du mythe de Scylla. Avec le thème du vagin denté, qui va avec ce que je vous ai expliqué. Donc, conclusion, le monstre est-il finalement en nous ou à l'extérieur de nous ? Dans les métamorphoses d'Ovide, vous comprenez que pour Ovide, le monstre, c'est une tendance de l'individu si son comportement n'est pas approprié. Pour Scylla, ce qui n'était pas approprié, c'était un mauvais rapport à Aphrodite. Et donc Scylla doit maintenant composer avec la monstruosité de son sexe faute d'avoir voulu se comporter autrement. Chez Ovide, on trouve deux autres métamorphoses étranges qui touchent à ce que nous appelons aujourd'hui la sexualité. Hermaphrodite, qui cumule les deux sexes, il en raconte l'histoire aussi de cette métamorphose-là. Et puis Iphis, le transsexuel, qui de fille qu'il était à la naissance, se métamorphose en garçon. Donc vous voyez là l'exemple d'une fiction imaginée il y a 2000 ans qui anticipe l'opération chirurgicale de réassignation de genre. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, le dysphorique de genre n'est pas pensé dans les termes du monstre, pas plus que les enfants nés en Bretagne aux malformations des mains dont on a parlé tout à l'heure. Marine parlait tout à l'heure de maladie ou de victime. Moi, j'avais prévu de parler de handicap. Voilà, on ne parle plus de monstre dans ce cas de figure. Et vérification faite, à Rome, le concept de handicap n'existe pas. Alors, si nous intégrons à l'avenir la machine dans l'homme, la puce dans le cerveau, le stimulateur cardiaque, c'est déjà fait dans la poitrine, nous devenons un mélange d'hommes et de machines, cyborgs. Mais la question que nous nous posons avec cette journée, c'est allons-nous être confrontés à des mutations de l'espèce ? Voilà, les pollutions auxquelles nous sommes soumis dans nos corps, ces expériences de laboratoire, perturbateurs endocriniens, pesticides. Tout cela peut-il entraîner des altérations du patrimoine génétique ? Et là, c'est vers les scientifiques que je vais me tourner maintenant. Les conséquences de l'activité humaine sont-elles prévisibles autrement que par la fiction ? Voilà, je vous remercie.
Bien, donc, merci beaucoup pour cette communication donc, très riche qui ouvre là aussi donc, plein de pistes. Alors, voilà comment nous allons procéder. Nous allons d'abord écouter les deux premières interventions et après, donc, il y aura comme ça donc, un débat et puis des questions croisées. Donc, si vous avez des questions, ne les oubliez pas, gardez-les et vous pourrez donc, les formuler donc, tout à l'heure. Et donc là, on apprend qu'effectivement, il y avait eu des débats sur les hommes augmentés, les femmes augmentées. Et l'autre question qu'on peut se poser, existe-t-il des monstres augmentés ? Voilà, donc là, on change d'échelle. Pardon, Julien. Comment on fait ? Alors, en attendant que Julien Gaillard donc, arrive, alors juste un petit mot sur Richard Guérino, parce qu'on ne l'a pas présenté tout à l'heure. Voilà, alors il nous fait des dessins magnifiques, voilà, avec le GPS aussi tout à l'heure pour naviguer. Alors, simplement, donc, moi, je l'ai connu par ses ouvrages et ses productions. Alors, la série là, la plus complète et la plus connue peut-être, c'est Le Chant des Striches, qui a 14 albums, hein, si je ne me trompe pas, donc 18 maintenant. Alors, j'avais un peu de retard, donc il va falloir que je me mette à niveau. Alors là. C'est fini. Alors, le premier, si je ne me trompe pas, c'était celui qui avait été publié en 1997 et qui s'appelait Ombre, hein, qui avait été donc tout à fait le coup d'éclat. Mais après, il y a aussi donc toutes sortes de productions, parce qu'il y avait L'Ange Noir en 2004, ou encore Le Syndrome de Doha, et puis tout récemment, donc avec Jean Tellet, Charlie Neuf. Et alors donc là, c'était une collaboration, parce que c'est lui qui était à la manœuvre pour le scénario. Et puis là, c'est plutôt une inspiration. Donc c'est tout nouveau, c'est 2019 chez Delcourt, c'est Entrer dans la danse. Donc voilà, donc je vous le signale aussi, parce que comme il y a les fêtes de Noël qui s'annoncent, on ne sait jamais quoi offrir. Donc c'est superbe comme album, donc précipitez-vous. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Alors je présente maintenant donc Julien Gaillard. Alors Julien Gaillard donc, est doctorant. Il travaille plus particulièrement sur la perception du corps des tuberculeux. Et puis, il a notamment co-organisé ici même une journée sur le corps ambulatoire. Et il a également donc participé aussi aux rencontres d'Angoulême Penser, comprendre la bande dessinée. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une page de publicité. Là, la prochaine édition aura lieu en novembre 2009. Donc, c'est un appel à communication. Et la thématique n'est pas si étrangère avec celle de la journée d'aujourd'hui, puisque nous aborderons successivement, c'est ce qui est prévu donc, à ce moment-là, tout d'abord les squelettes, puis les ectoplasmes. On terminera par les fantômes. Et on s'est posé une question existentielle. Allait-on garder ou non les momies ? Parce qu'on écarte les zombies, mais que faire des momies ? Voilà, je ferme cette parenthèse et cette page de publicité. Et donc la parole est à Julien Gaillard.
Bien. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à remercier donc Marine et Monsieur Nicolas Bormeister ainsi que l'Espace Mendès France pour l'organisation de cette journée. Alors en préambule, je tiens à vous faire un aveu. Quand Marine est venue me voir pour parler de ce projet, j'ai été tout de suite emballé. Alors quand on est dans une échéance souvent calendaire éloignée, on a toujours l'optimisme qui est toujours de mise. Au fur et à mesure que l'échéance arrive, on se dit pourquoi on a accepté, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Surtout que ce n'est pas une thématique de recherche pour moi. Donc on se lance dans différentes investigations sur le sujet. Sans être exhaustif, je peux parler des travaux de M. Fischer, de M. Courtine, de Anne Carole, Pierre Ancé, Frédéric Chauveau qui a effectivement fait un article dessus, Alexandre Klein, Patrick Thor, Bertrand Noailles, Michel Foucault, bref, la matière historiographique est bien présente. Et un premier découpage, j'avais imaginé, se dessiner, c'était de montrer, exposer, classer au XIXe siècle. L'objectif alors était d'observer le regard sur le monstre, la variation sur différents discours médical, littérature. Mais en 30 minutes, je me suis dit que traiter tout un siècle et différents regards, c'était une tâche beaucoup trop ardue. De plus, je me suis dit, Julien, tu vas intervenir après la collation de midi. Si tu ne veux pas provoquer de reflux gastrique, tu as peut-être tout intérêt à changer d'angle. Donc je me suis reparti sur l'historiographie et on peut constater Donc un petit point historiographique, donc on voit une première typologie des études qui ont été faites. Une part importante tente d'expliquer scientifiquement l'existence de figures récurrentes de monstruosité. On pourrait dire en quelque sorte une sorte de diagnostic rétrospectif qui permet de nommer les monstruosités. Je pense notamment aux travaux de Jean Goins ou Marie-Joseph Wolf-Queniaud. Autre approche, c'est celle qui consiste à interpréter via la psychologie collective la fascination pour les monstres. En gros, c'est « dis-moi quel monstre imagines-tu, je dirai quelle peur tu as et quelle peur cela renvoie ». En étudiant sous ce prisme, on met l'accent sur la pérennisation des représentations et donc des invariants au cours des différentes époques et sociétés. Un autre angle, c'était de faire la généalogie des formes et variétés, qu'elles soient réelles ou imaginaires. D'autres, enfin, ont enquêté sur une histoire des explications de la monstruosité. Donc, en mêlant toutes ces approches, était-il possible de donner une définition du monstre ? La réponse est complexe. Cela suppose de dépasser un paradoxe que soulève Anne Carroll dans l'avant-propos de l'ouvrage « Le monstre humain, imaginaire et société », celui de donner une définition générale à ce qui relève dans les faits de l'unique et du particulier. Donc c'est en basant sur les travaux, notamment d'Alexandre Klein, qui a travaillé sur les dictionnaires médicaux, que je me suis penché. Les dictionnaires médicaux sont une source sans pareille d'informations précises, historiquement situées, et ont l'avantage de retranscrire pas à pas les développements les plus pointus des sciences médicales et des sciences sœurs à l'intention des praticiens. Ils présentent la médecine tout à la fois dans un versant théorique, de recherche, dirions-nous, aujourd'hui, et dans un versant pratique, de l'exercice quotidien, puisqu'il était tourné davantage pour les praticiens, pour leur exercice quotidien. On y lit donc, année après année, le développement de certains problèmes, les débats en cours, et les textes de référence sur les sujets de discussion. C'est donc une lecture du monstre médical au cours du XIXe siècle que je vous propose de présenter ici en travaillant sur les concepts de monstre et de monstruosité tels qu'ils se font jour dans le discours médical. Comment la tératologie a-t-elle pris son essor ? Comment et quand s'est constitué un discours scientifique sur le monstre ? Donc c'est loin d'être une histoire conquérante et positive, faite de précurseurs et de génies, mais c'est plus par une voix discrète, aussi riche que silencieuse, que nous allons tenter de faire cette histoire. Donc, dans une première partie, le monstre comme un être contre-naturel. Dans le dictionnaire Pankouk, dans le 34e volume, qui est édité en 1819, l'article « Monstre », qui est écrit par Julien-Joseph Viré, qui est un fervent vitaliste et ennemi de Brousset, propose, lui, une explication de la formation des monstruosités dans la nature fondée sur le principe finaliste d'une bonté de la nature comme expression de Dieu. Je cite « Tout est sagement coordonné et prévu pour l'uniformité et la perpétuité des monstres et non pour la production des monstres et même des hybrides. La nature, par principe, maintient la pureté des espèces car elle vise le maintien de la perfection qu'elle a créée. Le monstre apparaît donc comme contre-naturel et son étiologie est dans cette perspective théologique. » Ce texte est une parfaite illustration de ce que Patrick Thore a nommé l'ordre métaphysique. Viré fait reposer son argumentation sur Dieu, qui a créé un monde beau, parfait et avec amour. En ce sens, Viré ne s'éloigne pas de Paré, pour qui la théologie était partie prenante de l'explication de la nature et de la formation des monstres. Mais le paradoxe y est apparent. Les monstres sont des variations contre nature, issues d'atteintes à l'ordre naturel, mais pour autant, rien ne se produit en dehors de la nature, qui contient l'ensemble du réel. Rien ne peut advenir en dehors des règles fixées par le Créateur. Les monstres doivent donc, d'une manière ou d'une autre, être rattachés à la nature. L'explication de la création des monstres viendra des éléments aléatoires. Dieu produit des germes, qu'il soit parfait ou non, mais entre sa main et la nature, ils subissent des chocs. Et ces chocs, ça peut être venir donc de dérangements de tout ordre et qui vont altérer la perfection de la création divine. C'est-à-dire que dans la perspective de Viré, le dérangement de l'ordre naturel serait donc la conséquence de l'agir non chrétien de l'humanité. Le monstre est bien le produit d'une altération extérieure de la nature, c'est l'action de l'humanité qui infléchit le cours de la nature et engendre donc des monstruosités. Viré, par ce procédé, par cet exercice de pensée, rattache donc l'existence du monstre à une conception morale. Les vices de la vie sociale et les abus de jouissance engendrent les monstres, car ils altèrent le cours de la nature et du développement des êtres. L'organisation naturelle, parfaite et belle par principe, se voit donc mutilée par les comportements humains ne correspondant pas à la morale chrétienne. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas plus de monstres humains, qu'il y a plus de monstres humains que de monstres animaux. Je cite, le libertinage ne se rencontre guère dans l'espèce humaine. L'ordre de la nature comme du discours est ici divin, donné, transcendant et donc global. Il semble que l'on soit donc toujours dans le paradigme médical d'Ambroise Paré et de son étude complète des monstres et des prodiges, titre révélateur d'une époque et d'une approche où se mêle allègrement le double statut du monstre, à la fois objet de science et objet de croyance. On y lit la fin d'une période fabuleuse, celle où les monstres sont des signes divins, des résurgences mythologiques venues hanter les infidèles, mais également les débuts de la science moderne. En effet, il faut noter que cette théorie métaphysique et morale du monstre est rattachée à une conception particulière. Viré définit également la médecine comme la connaissance des déviations organiques ou morbifiques de l'espèce humaine, et donc comme une branche de l'histoire naturelle. Il met l'accent sur l'histoire naturelle qui, outre le fait de contenir la médecine, rectifie les erreurs qui règnent encore en médecine. La médecine est subordonnée donc à l'histoire naturelle. On va basculer donc dans la deuxième partie, un peu quelques années après, 2 années pour être plus précis, dans le dictionnaire de 1821, rédigé par Nicolas Philibert Adelon, qui présente déjà un propos tout autre. Il met à mal la croyance commune selon laquelle la cause des formations des monstres se trouve dans l'imagination de la mère. Pour rappel, cette théorie-là, on imaginait que pendant la grossesse, c'était notamment Nicolas, ça date de Nicolas Malebranche, 18e siècle, que pendant la grossesse, si la mère était par exemple en manque de rognons de bœuf, bah, ça pouvait engendrer un enfant avec une tête de bœuf. Donc, Adelon étudie avec précision 2 autres théories étiologiques de la monstruosité qui sont celles des causes accidentelles et celles d'une altération primitive des germes. Donc le propos métaphysique de Viré se renvoie remplacé par une analyse scientifique du problème. Donc même si par manque de connaissances physiologiques concernant l'embryogenèse, ils ne peuvent expliquer avec rigueur l'apparition des monstres, ils font quand même le choix entre ces 2 thèses, de retenir la théorie des causes accidentelles. Car celle-là, elle n'implique pas le raisonnement théologique. En effet, l'idée d'affection primitive des germes équivaudrait à dire que des germes monstrués ont été créés. Dès lors, le rôle de Dieu dans cette affaire est mise en question. Penser que Dieu crée du désordre est blasphématoire et est donc une atteinte à sa toute-puissance. S'éloignant de tout propos métaphysique et ou théologique, Adelon avance l'idée selon laquelle, si les monstres violent la loi naturelle, c'est très certainement en faveur d'une autre loi qu'ils ne connaissent pas, de sorte que la régularité, l'ordre existe là où on voyait irrégularité et désordre auparavant. L'auteur, en fondant son analyse sur la raison et l'argumentation, tente alors d'établir la monstruosité comme un objet de science, défini comme une conformation différente à ce qui doit être. L'abandon de la théorie de l'imagination, qui marque une première dissociation du monstrueux et de la monstruosité, s'accompagne également d'un changement de perspective qui fait prendre le dessus, dans la communauté scientifique au moins, de la notion de monstruosité sur celle du monstre. L'intégration des monstres à l'ordre naturel s'accompagne de leur intégration au champ du médical. Les monstres quittent donc ainsi le champ de l'histoire naturelle pour être rattachés à l'ordre médico-pathologique. La monstruosité est une altération à l'instar d'une maladie. Elle peut en être le parallèle d'ailleurs. Ceci est confirmé en 1829 avec un article sur monstrueux de l'encyclopédie méthodique en 1829. Je cite, dans l'espèce humaine, les sujets monstrueux sont non seulement des individus malades, mais bien des individus très malades. Donc, l'association de la monstruosité à la maladie facilite la naturalisation du monstre et la scientifisation de son discours. Si la naissance de la tératologie est permise par l'intégration du champ d'étude du monstre et du monstrueux dans la médecine, elle ne sera réellement effective qu'à la suite d'un travail conceptuel important de constitution de la catégorie de monstruosité. Ce glissement conceptuel du monstre se fait sentir premièrement, quand on observe les différents articles et les différentes entrées dans les différents dictionnaires, par exemple l'entrée monstre, qui était l'entrée principale quand on voulait, quand on voulait consulter monstrueux, monstruosité ou monstre. Finalement, l'entrée monstre, au fur et à mesure du temps, jusqu'aux années 1830, déjà, on commence à diminuer, et c'est l'entrée monstruosité qui prend le pas. Et en 1850, l'entrée monstre renvoie directement à l'article monstruosité. La monstruosité devient donc un mal à part entière, et les monstres ne sont que les manifestations individuelles de cet état de choses. La monstruosité, qui était auparavant l'apparat des monstres, passe au premier plan pour qualifier le monstre, et elle constitue les corps monstrueux, les dispositions irrégulières et insolites des parties, les maladies, les lésions organiques. On voit donc se forger une catégorie scientifique où là où il n'y avait qu'un rassemblement de multitudes. Cette scientifisation du discours sur les monstres et l'organisation conceptuelle des différents termes, monstre, monstrueux, monstruosité, apparaît effective 4 ans après avec l'article fondateur de Saint-Hilaire dans Dictionnaire de Landral. Nous sommes en 1834. Les travaux de la famille Saint-Hilaire ont pris place dans le champ du monstre et de la volonté de scientificité s'affiche pleinement, et ce dès les premières lignes de l'article monstruosité. Je cite « Le mot monstre, autrefois repoussant et auquel s'attachaient des idées d'horreur ou de dégoût, ne doit plus exprimer aujourd'hui que l'état d'un individu qui s'écarte à des degrés divers dans une ou plusieurs de ses parties de la conformation ou de la structure qui constitue le type de son espèce, de son sexe, à l'âge où on l'observe. » Par conséquent, la monstruosité devient un terme générique par lequel on désigne les nombreuses altérations congénitales que les êtres vivants peuvent présenter dans l'organisation. L'idée des monstres comme jeu ou écart à la nature représente désormais l'état d'enfance de cette nouvelle branche qu'est la science des monstres. Cette dernière a gagné ses galons scientifiques avec la recherche étiologique et généalogique des monstres et l'apparition des théories plus naturelles et plus philosophiques. Alphonse de Vergy, médecin et dermatologue, annonce également que finalement l'étude des anomalies de l'organisation des êtres vivants a pris un nouvel essor, et ce parce qu'elle a su se tourner vers la physiologie, l'anatomie et l'embryogenèse, quittant ainsi l'histoire naturelle. Le monstre est désormais défini. Le monstre est désormais défini comme un fœtus chez lequel un ou plusieurs organes n'ont pas participé aux transformations successives qui font le caractère de son organisation complète. L'auteur poursuit par cette précision, pas si anodine que ça, que le nouveau-né qui offre cette disposition n'est pas malade. Ainsi, l'aboutissement de la prise en charge du monstre par l'ordre médico-pathologique engendre finalement la sortie de cet ordre. C'est qu'une fois la catégorie de monstruosité établie, on s'évertue à s'organiser, à le rendre opératoire. Pour comprendre les causes et le développement des monstres, les auteurs favorisent désormais les classifications méthodiques. On retrouve, bien qu'ils ne soient pas directement cités, les propos d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire dans son article des Annales des sciences naturelles de 1830, qui insistait sur l'abandon de la nomenclature irrégulière des naturalistes au profit d'une nomenclature méthodique apte à prendre en compte un nombre assez considérable d'objets. On quitte donc l'ordre médico-pathologique pour entrer dans ce que nomme Patrick Thor l'ordre classificatoire. Subtil mélange d'une volonté naturaliste de classification et une volonté de naturalisation du monstre et de définition de la monstruosité des médecins. Ce discours classificatoire sur les monstres permet d'éclairer l'embryogénie et la physiologie générale, mais également de conseiller la médecine pratique, soit en obstétrique, pour prévenir les causes de développement des monstres lors de la grossesse, soit en chirurgie qui doit remédier aux dérangements pour les nouveau-nés. Le débat s'est mu de l'étiologie vers la classification, et ce afin de développer des finalités pratiques. Le monstre est désormais rattaché à l'ordre naturel. Aucune monstruosité n'est assez considérable pour faire sortir l'individu de la série des êtres naturels à laquelle il appartient. Il y a un ordre des monstres, ce qui permet à un ordre scientifique du discours d'advenir. De l'histoire naturelle à la physiologie, on voit lentement apparaître l'idée du rattachement de la tératologie à la médecine pratique. Ces causes de monstruosité sont celles dont l'étude importe le plus en médecine. La tâche confiée à la médecine est désormais de reconnaître la monstruosité chez le nouveau-né. Le monstre n'est plus ce qui se montre, ce qui choque la vue et attire. La monstruosité se glisse désormais dans la plus petite des déviations à la norme physiologique et anatomique du corps. La médecine tend ici vers la prévision, tandis qu'elle établit une norme détaillée du corps humain. Ainsi, en 30 ans de temps, les textes, les propos et les représentations ont changé. On est passé d'une explication idéologique et théologique à un discours scientifique sur les monstres. La monstruosité a pris le pas sur les monstres et sur le monstrueux pour devenir un concept scientifique. Les monstres ont réintégré la nature et l'ordre a donc repris le dessus dans les discours. In fine, l'émergence d'un discours médical à but scientifique a été rendue possible par l'abandon du contexte religieux qui faisait intervenir l'idée du châtiment divin et le diable. On a congédié les spéculations sur les fins de Dieu. On a cherché dûment à vérifier les sources iconographiques et livresques. Et enfin, on a adopté une autre conception de la nature. Avec la séparation entre la médecine et la théologie, les choses divines cèdent la place à la recherche des causes naturelles, bien distinctes des choses surnaturelles. Grâce à l'affirmation du primat de l'observation et l'expérimentation, les choses cachées vont devenir accessibles à l'explication. La médecine a permis au monstre d'être étudié et en retour, le monstre a participé à la naissance de la médecine moderne en lui assurant une prise sur la totalité du réel. Ainsi, l'intérêt du regard médical pour ce qui se voit directement, ce qui se montre devait finalement, mais non paradoxalement, permettre au regard médical de se réorganiser vers l'invisible. Même si en dernier terme, l'ordre classificatoire a dépassé l'ordre médico-pathologique, la médecine fut un rouage majeur dans cette histoire des sciences du monstre s'élevant par là même au rang des sciences de la vie par excellence. Je vous remercie.
Bien, donc merci pour cette présentation donc, focalisée sur la première moitié du 19e siècle. Donc le temps maintenant est celui des débats. Alors après, il y aura une pause café et donc Héloïse Morel s'est engagée au fait qu'on n'aura pas de rognon de bœuf à ce moment-là pendant la pause, uniquement le reste. Alors toujours est-il que donc là, la parole est libre, donc c'est à vous. Des questions, des interrogations, des précisions, je n'ose dire de témoignages avec un sujet tel que celui donc d'aujourd'hui, mais c'est vous qui avez la parole. Donc il y a un micro normalement qui va circuler. Un micro qui fonctionne en plus, donc.
Merci pour ces deux exposés. J'aurais une double question qui permettrait peut-être de les relier. Est-ce que dans la pensée latine, il y a une réflexion aussi médicale qui associe, qui rapproche ces monstres mythologiques et puis des êtres réels que les Romains rencontraient aussi? Ou à l'inverse, dans l'autre sens, est-ce que le discours médical utilise des références mythologiques? Là, je connais un tout petit peu la réponse parce que je sais qu'il y a des nouveau-nés qu'on appelait cyclopes, par exemple, parce qu'ils avaient un seul œil ou des choses comme ça. Mais voilà, si vous pouviez dialoguer, en fait.
Alors, en fait, je n'ai pas rencontré de considération médicale dans les textes latins que j'ai consultés. J'en ai trouvé chez Aristote. Dans le domaine latin, il faudrait peut-être regarder du côté de Cels, mais je t'avouerai que je n'ai pas fait cette exploration-là. En revanche, une mine de considération se trouve aussi dans l'encyclopédie de Pline au 1er siècle après Jésus-Christ, mais lui, il va davantage s'intéresser aux monstres ethnographiques, et pas, c'est-à-dire... aux peuplades des confins qui sont censés vivre à l'autre bout du monde, tels justement les unijambistes à pied parasol, par exemple, ou les cynocéphales, les hommes à tête de chien, en croyant véritablement que ça existe. mais de discours médical, non. Alors, on a aussi des témoignages de Sénèque dans ses lettres sur... Non, c'est l'oncle de Sénèque, pardon, sur des pratiques abominables de mutilation d'individus. Donc là, on va vers le handicap, mais qui n'est pas pensé comme tel. Donc, à voir, à creuser.
Pour mon côté, ma réponse va être frustrante parce que je n'ai pas vraiment la réponse, mais disons que j'aurai quelques pistes. Oui, enfin, mon ressenti, c'est que je pense que oui, il y a des références, c'est obligatoire, puisque la médecine, dans l'enseignement, en tout cas, jusqu'à tard dans le XXe siècle, il fallait parler latin, grec. Il y avait aussi des cours, notamment sur les différents sermons, enfin Hippocrate et différents médecins de l'Antiquité. Donc oui, je pense qu'il y a forcément des références sur les premières classifications et notamment sur les cyclopes, sur les monstres mythiques issus de la mythologie grecque. J'avouerai que je n'ai pas d'exemple. Peut-être que M. Fischer aura plus d'éléments que moi.
Merci. Simplement une précision sur l'aspect médical. À partir d'instant où Hippocrate ou Aristote vont donner des solutions pour expliquer le développement de l'embryon ou du fœtus. Hippocrate, avec le mélange des semences, l'homme fabrique une semence, la femme fabrique une semence, et ce sont ces deux semences qui vont se rencontrer pour fabriquer l'embryon et le fœtus. À partir de l'instant, il va y avoir un accident dans la production de ces semences, il va y avoir une malformation. On va le trouver dans le corpus hippocratique, ce type d'explication. Et dans le corpus aristotélicien, vous aurez l'image que donne Aristote de la matière qui est fournie par l'homme, la matière qui est fournie par la femme, et l'homme qui donne l'idée comment cette matière devait être formée. Il donne l'image du sculpteur qui va sculpter l'individu sur cette matière fournie par la femme. S'il y a une matière suffisante pour former un individu, il y a un individu normal. Mais s'il y a un peu plus de matière pour pas former, impossible de former deux individus, il y aura un monstre double, qui sera un ichtyophage ou un céphalopage, peu importe. Et s'il y a beaucoup trop de matière, à ce moment-là, il y aura deux individus. Donc on a quelque part dans cette conception de la génération déjà un discours qui peut être médical pour l'époque, mais qui donne une explication dans la naissance de la normalité ou de l'anormalité. Je pense que c'est une idée comme ça. Puis on l'a aussi un peu plus tard dans la médecine au 1er siècle, dont le nom m'échappe sur ce médecin, qui préconisait, comme on a parlé d'imagination de la femme enceinte, qui préconisait pour que les femmes puissent faire de beaux enfants, c'était de les mettre dans une belle ambiance, avec des belles statues, pour qu'elles s'impriment de ces statues, et non pas qu'elles voient de l'horreur, parce qu'à ce moment-là, leur embryon, leur fœtus pourrait donner un monstre. Voilà.
Merci. Peut-être d'autres questions ? Il y a une question là-bas. Deux questions même.
La première question pour la première conférence. Donc il y a aussi un autre être mythique qui est Médusa, qui est aussi le résultat d'une métamorphose d'une nymphe, qui est aussi une histoire de jalousie également. Alors je voulais savoir si Ovide s'était emparé également de cette histoire, et ce qu'on disait au niveau de la symbolique justement de cette histoire-là. Ça, c'est pour vous.
Alors, oui, en fait, l'histoire, elle est racontée par Ovide au livre 3 et 4 des Métamorphoses. Donc, je vous laisse le soin de la découvrir. Je pense que Ovide ne tire pas parti de l'épaisseur anthropologique du mythe de Méduse, mais pour le coup, on a des livres qui ont issus de recherches de comparatistes ou de spécialistes de sémiotique ou d'esthétique, qui ont travaillé sur les significations du mythe de Méduse. Voilà. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire que je ne sais pas par quelle direction vous répondre, mais enfin, ça peut être aussi bien une phase de mort qu'une phase réfléchissant des considérations esthétiques, etc.
Donc, ma deuxième question pour la deuxième conférence. En vous écoutant, j'avais la sensation, finalement, qu'au fur et à mesure que notre vision des lois de la nature évoluait, la vision du monstre évoluait parallèlement, en fait. C'était la différence de la compréhension des lois de la nature qui faisait aussi qu'on finalement on voyait les monstres différemment.
Pour en tout cas le monde modical, oui, effectivement, c'est complètement ça. On peut vraiment mettre un parallèle sur la vision et la définition du monstre dans le monde modical. Après, on va dire, dans l'imaginaire collectif, je ne pense pas qu'on puisse, au moins au niveau des bornes chronologiques, mettre les mêmes représentations à la même période.
Juste un commentaire là-dessus. Je trouve que, par exemple, pour aller dans ce sens-là, le monstre de Frankenstein est très intéressant pour ça aussi, parce qu'on est totalement dans la recherche, finalement, du secret de la vie, de ce qui anime, de l'anima. Dans le cas de figure, c'était l'électricité. Et voilà, on a une image de monstre qui accompagne totalement aussi justement les questionnements que l'humain se pose sur la nature, sur le secret de la vie, etc. Voilà.
Moi, j'avais aussi quelques questions, là, j'en profite aussi.
C'est par rapport à Frankenstein, parce que ce qui est intéressant dans le mythe de Frankenstein, c'est qui est le monstre réellement ? Est-ce que c'est le monstre créé ou est-ce que c'est le créateur qui est dans ce cas ?
Pas de problème.
Il faut toujours laisser les organisateurs.
C'est une question pour Isabelle, finalement. Parce que quand on écoute ce que tu nous dis sur Scylla et sa description par Homère d'abord, puis sa description par Ovide, il y a quand même une grande disparité dans la... Même s'il y a des éléments qui persistent, il y a une grande disparité. Alors je comprends bien qu'il y a pratiquement un millénaire entre ces deux descriptions et qu'on est en droit de penser que la description a pu évoluer au cours du temps, mais je pense que c'est la même chose pour d'autres types de monstres. Et finalement, il y a une métamorphose du monstre. Il y a une façon de transformer le monstre en fonction aussi de ce qu'on a à raconter. Et que je pense qu'il y a là un travail peut-être qui est intéressant dans la façon dont on fabrique le monstre pour un discours donné.
Oui, en fait, c'est un peu perturbant quand on regarde l'iconographie et les textes littéraires. Il n'y a pas beaucoup de témoignages. C'est-à-dire que quand on parle des monstres de l'Antiquité, on a l'impression qu'on a plein de témoignages. Ça n'est pas le cas. Et donc, dans le cas de Scylla, l'ensemble des textes conservés tiendrait sur ce feuillet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses. En revanche, si on lit la littérature critique, là, on a une prolifération de tentatives d'interprétation pour essayer de concilier ce que tu viens de mettre en évidence, c'est-à-dire l'espèce de disparité incroyable entre la version homérique des choses et la version ovidienne. Entre les deux, on a une métaphore par-ci dans le théâtre classique grec, une allusion par-là chez des scoliastes, donc vraiment un maigre butin. Et en fait, je me suis référée au travail d'une anthropologue qui répond à un aspect de ta question en montrant justement que les morceaux assemblés qui dessinent apparemment un ensemble disparate peuvent être expliqués et possèdent leur cohérence. Donc c'est elle qui a mis en valeur ce par quoi j'ai presque conclu, c'est-à-dire la cohérence d'une figure tripartite. Voilà, un monstre qui est doté des trois composantes. Après, il est bien évident que le mythe, c'est précisément une matière malléable, non circonscrite à l'intérieur de contours figés, mais dont chaque époque va s'emparer pour y projeter ses préoccupations du moment. Et Ovide, il se prénomme Magister Amoris, le maître de l'amour. Donc il va s'emparer de Méduse pour en faire une histoire d'amour, ou reprendre les variantes selon lesquelles Méduse était une femme qui avait été séduite par Neptune, etc. Et Scylla, il va en faire une histoire d'amour aussi, bon, même s'il y a des antécédents hellénistiques. Donc effectivement, le mythe a bougé. En revanche, ce que nous avons retenu du mythe de Scylla, c'est simplement l'expression passée de Charybde dans Scylla. Et si l'autre aspect du mythe de Scylla, la version ovidienne, n'a pas survécu dans notre imaginaire, c'est peut-être parce que la femme ne fait pas aussi peur que jadis, on peut l'espérer.
C'est ce qu'on a discuté un peu à midi à propos de Frankenstein et de la transformation finalement de Frankenstein dans sa représentation au cours du temps, entre le 19e, le 20e et même aujourd'hui le 21e siècle. On a le sentiment vraiment qu'il y a un remodelage permanent d'une création qui est du début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, avec vraiment une réinterprétation permanente et une modification du regard qu'on porte sur ce mythe. Oui.
Parce que nous sommes vivants et que nous voyons les choses différemment.
Alors, du coup, je pose ma question. Non, j'en ai pour chaque intervenant. Pour la première intervention, donc, autrement dit, est-ce qu'il existe éventuellement des collas? Alors, je m'explique. Est-ce qu'on a donc l'enfant donc, naturel de Caribe ici, là? Autrement dit, est-ce que les monstres donc, peuvent enfanter? Est-ce que les monstres peuvent se mêler et se reproduire? Voilà, ça, c'était la question. Et puis, l'autre interrogation, toujours sur la première communication, est-ce qu'il existe comme ça des figures monstrueuses où la métamorphose est réversible? Autrement dit, est-ce qu'on peut revenir au point de départ ou est-ce que c'est toujours à sens unique et à ce moment-là, c'est toujours définitif? Voilà, deux questions. Alors, je pose tout de suite ma deuxième question, c'est sur la deuxième intervention, parce que comme ça s'arrête en gros jusqu'aux années 1840, après, il y a d'autres théories qui apparaissent, notamment qui sont donc liées à l'hérédité. Et donc, vous savez, il y a une théorie qui dit que finalement, donc, il existerait donc des groupes humains qui seraient donc noyés dans le flot de l'humanité depuis la préhistoire, qu'on n'aurait donc pas forcément donc aperçus, qui se reproduiraient, eux, d'une génération à une autre génération, et qu'à ce moment-là, donc, finalement, si on n'appartenait pas à cette lignée-là, ben, on n'aurait rien, si je puis dire, à craindre, on ne produirait pas des enfants qui seraient à leur tour donc un petit peu monstrueux. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a toute une tendance qui précise ça, et donc, d'une certaine manière, c'est une théorie qui est assez rassurante. Parce que si il n'y a pas l'hérédité, on ne peut pas devenir monstre d'un point de vue accidentel. Alors que là, évidemment, c'est un petit peu donc l'inverse. Là, la monstruosité se gagne par le biais d'un accident, quel que soit le dérèglement ou l'anomalie. Alors que la question donc, des théories héréditaires, elles sont quand même relativement fortes à partir des années 1840, parce qu'on explique à peu près tout avec l'hérédité. Il y a même un théoricien qui dit, bon, de toute façon, dans le domaine social, on ne peut rien faire, parce qu'il existe des pauvres-nés. Voilà, et donc, soit on est pauvre-né, soit on ne l'est pas. Et donc, de toute façon, ce n'est pas la peine d'avoir une action sociale. Voilà, donc, c'est une théorie qui explique absolument donc, toutes les situations et qui permet donc, évidemment, de ne pas intervenir, ce qui est assez commode quand même parfois.
Alors, donc, dans l'ordre, dans le domaine de la mythologie, les monstres ne se reproduisent pas. Ils sont inscrits dans une généalogie. Ils ont des parents. On a un texte fabuleux pour ces aspects-là, c'est la Théogonie d'Hésiode qui nous raconte toutes sortes de créations, un contexte de création du monstrueux, mais les monstres de la mythologie ne se reproduisent pas. En tout cas, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête.
Il n'y a aucune exception.
Pour l'instant, je n'en vois pas. Apparaître. En revanche, du côté de ce que l'on a cru, c'est-à-dire en l'existence donc de peuples des confins qui seraient dotés de bizarreries anatomiques, par exemple les cynocéphales, les cyclopes, les blémies, les arimaces, etc. Là, on imaginait le monstre non pas à l'échelle du cas particulier, singulier, mais à l'échelle de la race, donc susceptible de se reproduire. Donc ça, on a pensé ça, c'est pas la mythologie, c'est vraiment l'histoire des idées. Et puis la dernière question, c'était, y a-t-il possibilité de retourner en arrière et de reconnaître le statut, enfin de revivre le statut d'humain une fois qu'on est passé par la case monstre? Eh bien, c'est une question très intéressante. Il faudra que je cherche. Je n'ai pas l'impression d'avoir rencontré cela dans les métamorphoses, par exemple.
Donc, il n'y a pas d'espoir.
Eh bien, pour le moment, je ne vois pas d'issue à ce coup de baguette magique qui permettrait de faire machine arrière.
Pas vraiment, c'était plus une remarque, enfin un complément, on va dire. Peut-être si, effectivement, ça permet aussi de faire un petit lien aussi avec le monstre, mais le monstrueux caractère maladie mentale, avec les théories de dégénérescence de Camille d'Arrest, mais là, c'est plus fin 19e. Effectivement, il y a peut-être un lien entre les théories héréditaires et... je ne sais pas.
Merci en tout cas. Donc, question, interrogation, oui.
Je vous remercie, comme tout le monde, de toute façon, pour cet exposé très enrichissant, pour l'un comme pour l'autre. Donc on a vu plusieurs types de monstres sous différents angles, la science, l'intériorité, mais finalement on ne s'est pas tellement penché sur l'essentiel, c'est-à-dire, pourtant on l'a survolé avec le physique, la corporalité, mais l'aspect en lui-même du monstre, c'est-à-dire la laideur. Et pourtant, c'est ce qui nous vient en premier. On imagine toujours le monstre comme quelque chose de laid, alors que finalement, les créatures sont subjectivement laides. Le vampire, on le voit très bien, a subi une telle modification qu'on est passé d'un Nosferatu immonde à un playboy à la limite du romantisme dégoulinant. Mais il y a aussi des monstres qui sont jolis, les licornes, les lutins, les fées, et finalement, est-ce que en se concentrant sur les monstres laids, on n'oublierait pas plutôt les autres monstres qu'on voit avec... j'ai pas envie de rajouter aussi les anges pendant qu'on y est, mais est-ce qu'on n'occulterait pas aussi l'apparence finalement, parce que ça va tellement de soi de voir le monstre comme quelque chose d'affreux qu'on oublie qu'il y a aussi l'anomalie qui est belle. Enfin, voilà.
Alors, en fait, vous êtes ovidien, sans le savoir.
Fantastique.
Parce que, précisément, votre remarque pourrait sortir de la bouche d'Ovid, parce que, justement, il insiste, il n'aborde pas le monstrueux avec le critère de la laideur, justement. Jamais. Donc, on a le tableau de créatures de la mythologie, que vous connaissez tous, qui vivent une métamorphose. Elle est pensée donc comme une altération corporelle ou une modification, mais le critère de la laideur n'intervient pas. Donc ça, c'est un premier changement par rapport à la réaction que vous mentionniez. Et il va même plus loin que cela, parce qu'il reprend ce qu'on appelait la tradition de l'éloge paradoxale. Et même, il va camper donc, au livre 12 des Métamorphoses le portrait d'un petit couple amoureux centaure. Et il va faire l'éloge de la beauté de la centauresse. Voilà. Donc la beauté de la créature composite qui tient à la fois du cheval et de l'humain, et va montrer la centauresse avec un peigne en train de se coiffer les cheveux. Voilà. Donc on a quelque chose de joli et qui répond donc à... Enfin, qui a aussi sa filiation rhétorique.
De mon côté, quand je n'ai pas souvenir de la notion de beauté ou de laideur dans les descriptifs des entrées dans les dictionnaires médicaux, peut-être à croiser avec l'entrée tout simplement de laideur, est-ce que ça existe ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, mais c'est vrai que ça interroge sur le seuil des sensibilités à travers les époques, savoir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid. Effectivement, donc ça interroge de toute façon à travers les différentes époques, mais dans le discours médical, jamais trouvé de traces, en tout cas dans le premier tiers, dans les concepts de monstrueux, monstre et monstruosité qui étaient sur l'esthétique corporelle.
Autre question, interrogation sur la beauté des monstres ? Oui, il y en a.
J'ai une question pour Isabelle. Dans ce que vous disiez, il y avait quand même l'idée d'une intériorité qui était exprimée à travers la transformation. Et je voulais savoir si justement le monstre n'était pas déjà monstre avant de le devenir vraiment physiquement, et que c'était vraiment une question de comportement humain qui devenait ensuite extériorisé. Et savoir s'il existe.
Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est un peu le message implicite des Métamorphoses d'Ovid. C'est valable pour un bon nombre de ces personnages. On ne peut pas tous les lire selon cette grille de lecture, mais en tout cas, c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux, pour Lycaon, dont j'ai rappelé l'histoire très rapidement, qui était donc... Là, Ovid commente directement la métamorphose en disant, voilà, je vous raconte qu'il a changé d'apparence et qu'il est devenu un loup, parce que il était déjà très cruel avant, c'est-à-dire que c'était un homme monstrueux en quelque sorte par certains aspects. Et pour Sylla, de manière patente aussi, voilà, il commente en laissant entendre qu'il y a un problème de comportement chez elle.
Et du coup, ce serait une sorte de physiognomonie avant l'heure.
Oui, enfin, la physiognomonie consiste à interpréter des traits morphologiques en les dotant d'une propriété psychologique. C'est-à-dire que si vous avez le nez aquilin, comme celui de l'aigle, vous allez être un conquérant. Bon, alors on peut effectivement utiliser cette grille de lecture pour aborder ces changements d'apparence. Ouais.
Sur cette question, je me permettrai, en tant qu'helléniste, d'apporter un élément de réponse. C'est le mode d'interprétation que l'on donne depuis les stoïciens à propos de la métamorphose des compagnons d'Ulysse empoisonnés par Circé qui se transforme en cochon. Hein, donc c'est vraiment une interprétation moralisante et qui rejoint aussi plutôt que la physiognomonie, en fait, par exemple les fables d'Ésope, c'est-à-dire que on classe les esprits, les modes de comportement, l'éthos, etc., des personnages, et on les figure par des ressemblances animales. Mais ça rejoint l'idée que il n'y a pas que les corps qui peuvent être monstrueux. En effet, il y a les esprits. Et ça, la tragédie grecque en est pleine, en fait, hein, d'esprits, d'âmes monstrueuses, quoi. Et la métamorphose n'est simplement qu'une manifestation de quelque chose qui était déjà à l'intérieur. Et donc, dès l'Odyssée, on voit ça, en effet.
Autre suggestion, complément, interrogation, question ? Alors, juste peut-être une précision, parce que ça peut être aussi une autre piste dans le panorama des monstres, c'est que au XIXe siècle, on l'oublie très souvent, pour aller à l'essentiel. Donc, vous savez, au début du XIXe siècle, les périodiques qui ont le vent en poupe, ce sont les canards. Et ces canards, donc, peuvent être vendus par la librairie de colportage. C'est assez important. Et donc, ces canards s'effacent progressivement quand on assiste à l'irruption de la presse à grand tirage qui atteignent des tirages absolument donc mirifiques. Mais dans cette presse de colportage, et donc dans ces canards, il y a un être fantastique qui apparaît à un moment donné. La description de cet être fantastique a donné lieu à un certain nombre de rééditions, et c'est le canard qui a été le plus publié au XIXe siècle. Et dans ce canard, on trouve un être mystérieux. La scène se passe plutôt donc dans une mer. La description est assez floue. Ça peut être la Méditerranée ou l'Atlantique. Et là, ce sont des pêcheurs qui ont jeté donc leur filet de pêche. Et quand ils remontent à bord le filet de pêche, eh bien, ils ont emprisonné donc un homme poisson. Et cet homme poisson est de couleur jaune. Il est entièrement couvert d'écailles. Donc le canard raconte que les pêcheurs et les marins se sont précipités sur lui pour essayer de le capturer, mais celui-ci ne s'est pas laissé faire. Il a glissé, si je peux dire, des mains des différents donc marins, et il s'est jeté donc par-dessus bord. Et il a regagné les flots. Donc là, on a un personnage, un monstre mystérieux, donc voilà, dont on ne comprend pas, qui fait pas forcément donc peur, mais qui est évidemment étranger à l'humanité, mais en même temps qui laisse supposer qu'il existe aussi sur la planète, voilà, d'autres êtres qui ne sont pas tout à fait des êtres humains, qu'on ne comprend pas, dont on ne soupçonnait d'ailleurs pas l'existence, mais du coup qui sont considérés comme des monstres parce que voilà, ils sont trop différents. Donc l'être, le monstre mystérieux, est aussi un personnage qui est assez intéressant.
Et le Loch Ness. Ah, voilà.
Mais on ne l'a pas pêché.
Mais pour les figures d'hybrides aquatiques, par exemple, les sirènes, on a pu penser que c'était une confusion avec les lamantins. J'y pense avec l'histoire que vous venez de raconter.
Bien.
C'était juste pour dire qu'il y avait des monstres qui étaient transitoirement réversibles, comme par exemple les loups-garous, comme le Dr Jekyll et le Mr Hyde, qui a presque réussi à se guérir. En tout cas, il le contrôle. Et puis on trouve aussi dans les mythes modernes Hulk et le docteur Mader. Voilà, ce sont des monstres transitoirement réversibles.
On peut aussi avoir aussi des rencontres monstrueuses, parce qu'il y a une bande dessinée dont j'ai oublié le titre, et c'est juste quelques pages, qui en quelque sorte va mettre en scène deux types de monstres, la créature de Frankenstein et le golem. Et donc là, on a deux créatures voilà, qui sont assez singulières, donc on peut imaginer le dialogue entre ces deux personnages.
Finalement, c'est les mutants dont il est question, ceux qui arrivent à se transformer, c'est la mutation génétique qui fait ça. Je sais plus, oui.
J'aurais une question parce que ça m'est venu avec le golem. Ce serait plutôt pour M. Gaillard. Est-ce que les scientifiques du 19e siècle se sont penchés, j'ai pas envie de dire sérieusement parce que la science a toujours pas vraiment apprécié les mythes, mais le cas des homonculus, parce qu'il me semble qu'il y a toute une préscience, vous voyez, un peu comme avec l'alchimie pour l'alchimie. lapsus, parce que dans l'homonculus, il y a l'idée qu'on utilise la semence, qu'on veut créer un embryon, mais sans passer par la nature, du coup, on reviendrait presque sur Frankenstein, dans un sens, sauf que là, on utilise carrément les parties qui ont été produites, mais vu votre tête, il n'y a pas grand-chose qui est fait.
je vais chercher, non, je ne vois pas. Non.
Enfin, moi, je ne vois pas. Je ne sais pas si Monsieur Fischer.
L'homonculus appartient bien à une mentalité qui sera celle du 17e, du 18e, dans le cadre de la préexistence des germes, par exemple. À partir de l'instant où on commence à connaître ce que c'est qu'une cellule sexuelle comme l'ovule et le spermatozoïde, et qui. Ces deux cellules sexuelles sont nécessaires pour fabriquer un embryon. Le concept même de l'homonculus n'avait plus lieu d'être. Hein, au 19e siècle, ça n'existe plus. Ou ça peut toujours exister parce qu'on est dans. Quelqu'un peut toujours avoir envie d'en parler et on est dans hors science. Hein, on est dans la fiction où on peut toujours. Hein, mais dans la science qui se fabrique, l'homonculus est loin derrière elle.
Pas de regrets, pas de remords, pas de questions rentrées. Donc à ce moment-là, on va faire une petite pause.
C'est ça, à l'étage avec café, thé, etc. Et on se retrouve dans un bon quart d'heure.
Donc ça fait 20 minutes. Quoi, parce que...
Merci aux intervenants.
Te reprendre, comme c'est une journée d'études, vous le savez, donc consacrée donc, aux monstres. Du coup, on a décidé aussi d'avoir des horaires un petit peu donc monstrueux. Donc, on ne va pas être en conformité avec les usages universitaires. On va commencer donc plus tôt. C'est un événement mémorable. Donc, il faut quand même.
Alors, jamais vu.
Pour cet après-midi, donc, on va aussi donc changer un petit peu de la manière de présenter donc les textes et les interventions. Il y a un mot d'ordre qui avait été lancé jadis, il y a quelque temps, « Debout les monstres ». Et effectivement, les deux orateurs donc, vont vous présenter en adoptant la station donc, « Debout ». Alors, pour Jean-Louis Fischer, donc, je n'ai pas besoin de le présenter, mais simplement, il a publié donc, un livre il y a tout juste 10 ans, si je ne me trompe pas, la première édition, un superbe livre qui s'appelle « Monstres de pierre ». Et dans cet ouvrage « Monstres de pierre », on découvre tout sur les gargouilles, les diablotins et les autres créatures produites par l'imagination, à la fois donc des architectes et des sculpteurs. Donc là aussi, vous pouvez l'ajouter à votre liste des cadeaux pour les fêtes qui s'annoncent. Donc n'hésitez pas, c'est absolument donc magnifique et c'est passionnant. Donc c'est à vous pour une trentaine de minutes.
On va essayer. Voilà. Bon, je vais vous présenter donc un exposé sur le monstre, mais le monstre d'une façon un peu particulière, comme vous allez le voir. C'est dans l'autre sens, ça ne marche pas, au secours. Ou alors je peux... Ah, c'est pour toi, voilà. examen. Hein.
Bon, c'est pas grave, on est en train de rattraper notre avance.
Voilà. Très bien. D'abord, une histoire des monstres peut se s'expliquer de cette façon rapide en trois périodes qui avaient été déterminées par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, l'un des fondateurs de la science des monstres, qui expliquait qu'il y avait une période fabuleuse, qui était certainement la plus grande période depuis l'Antiquité, depuis qu'on a des textes, jusque dans la fin du XVIIe siècle. Il y a un peu une avance dans le XVIIIe siècle, mais c'est cette grande période où on peut présenter et discuter sur un monstre. Ah oui, il n'y a pas de... Il y a un pointeur ?
Le pointeur, c'est le...
Ah voilà, ça y est. Où on peut discuter sur un monstre tout à fait fabuleux. Hein, mais là, il y a une histoire, l'historien, le médecin, le spécialiste des monstres va pouvoir discuter très longtemps sur un tel monstre. Mais à côté, on pourra avoir en effet une forme de tératologie tout à fait normale, normative, dans la mesure où là, ce sont des handicaps ou des anomalies qui permettent à la personne de vivre. Donc à ce moment-là, on a une image directe et une représentation directe et bien réelle de la monstruosité. Ensuite, au XVIIIe siècle, on l'a appelé la période positive. Période positive parce que tout ce qui était de fabuleux a été mis de côté. Là, à ce moment-là, on prend le monstre pour ce qu'il est. On prend le monstre et on l'étudie dans son anatomie, dans sa morphologie, dans son squelette. Le monstre n'est plus un objet fabuleux, extraordinaire, même si quelque part on va mettre en place ce qu'on va appeler la querelle des monstres, savoir si Dieu, enfin c'est toujours là, voilà, il y a la question théologique qui est encore forte, si Dieu est responsable des monstres ou pas. Mais dans une rationalité scientifique, le monstre a une réalité et le fabuleux est placé de côté. Et ensuite, la période scientifique, eh bien, cette période scientifique se met en place dans ces années 1820, c'est un petit peu avant, et puis d'une façon rationnelle à partir de 1830 avec Isidore Geoffroy Saint-Hilaire qui va nommer cette science la tératologie, théras, on vous l'a expliqué tout à l'heure du terme grec, monstre, et toutes les dérivés qu'il peut y avoir autour de ce terme. La scientificité que l'on va donner au monstre se trouve donc dans sa classification et sa nomination. Il est évident qu'une science ne peut se forger qu'à partir de l'instant où on connaît l'objet, on sait nommer l'objet, et quand on parle d'un objet, on nomme un objet, on sait de quoi on parle, et à ce moment-là, on peut créer une science. Et donc, un exemple très rapide, les premières nomenclatures ont été faites sur ce qu'on a appelé les monstres doubles. Hein, on avait, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire va classer dans sa thèse de médecine trois grandes catégories de monstres doubles qu'on peut définir par les lettres X, hop, X ou H, et on va les appeler pages. Et ici, on aura les monstres sont inégaux, et on aura un hétéropage. Hein, on voit bien, ici, il est en forme de H. Les monstres qui sont en forme de Y, on va les appeler dîmes. Et ici, quand ils sont d'une partie inégale, on les appelait hétérodîmes. Et quand ils sont en forme de lambda, on les appelle adelphes, hétéradelphes. Donc, ils sont d'une façon inégal ici. Donc il suffit de dire hétéropage, hétérodyme ou hétéradelphe et on a tout de suite l'image de l'objet scientifique sur lequel on va travailler. Hein, donc la nomenclature était importante pour créer cette science qu'on a appelée la tératologie. Alors on va quitter donc cet aspect entre le monstre qui est un jeu de la nature, le monstre ne devient plus un jeu de la nature, mais il va falloir expliquer ses origines. Ça va être les nouveaux paradigmes. Alors là, ici, je vais vous parler un petit peu de cet aspect de la représentation et de l'interprétation, hein, pour s'ouvrir, pour ne pas rester trop enfermé dans une science de la tératologie. Et on peut faire appel, je pense que certains connaissent bien ce concept, cette théorie qu'on appelle la théorie des géants, qui est assez complexe. Là, moi, j'ai, personnellement, la théorie des géants, c'est Biedermann qui invente cette conception, et à partir d'un certain nombre d'objets d'objets géométriques. Par exemple, on peut prendre un cylindre, un cube, une pyramide. Et après, avec 5-6 objets comme ça, on peut reconstruire à peu près 10 puissance 2 autres objets. Mais pour construire ces objets et reconnaître ces objets dans des formes géométriques, dans ces quelques formes qui peuvent être réductrices, il faut avoir soi-même une connaissance déjà de l'objet qui peut être représenté. Par exemple, ici, dans cette conception des géants, il y a l'aspect visuel. On voit ce petit chat qui se représente un lion, mais il faut bien sûr qu'il soit lui-même connaisseur de ce lion et que pour lui, il puisse se reconnaître dans ce lion. Et on a donc toute peut-être une famille chat qui est quelque part dans cette représentation. Pour vous dire, je vais aller un peu vite, excusez-moi, mais pour vous dire, si je prends ce monstre qui avait été décrit dans ce XVIIe siècle, le monstre de Cracovie, mais dont on connaît l'origine, qui est né dans le XVIe siècle. On sait qu'il est né, c'est Boaz Touahou qui nous raconte qu'il est né d'une famille tout à fait honorable, parce qu'on pourrait penser que c'est un acte diabolique, on est un peu encore dans le fabuleux. Et ce monstre, on l'habille, vous voyez, il a ici des têtes de chiens qu'on peut retrouver sur les armures du château de Heidelberg, par exemple. Vous avez des chevaliers avec ces têtes de chiens sur les genouillères. Et ce monstre, le tératologiste, quand il le voit, justement en s'inspirant de ce concept de la théorie des géants de quelque forme, comment on peut reconstituer ou donner une réalité à ce monstre? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette trompe avec ses yeux qui sont assez indécis en fin de compte, et on peut le rapporter tout à fait à une cyclopie avec proboscide. Hein, c'est quelque chose qui existe parfaitement. Et ça, c'est la question qui s'est posée, et avec, vous connaissez notamment Jean Séard, hein, qui est un grand connaisseur de ce 16e, 17e siècle, où lui, il pense, il me dit toujours, mais non, tout ça, c'est de l'imagination, tous ces dessins viennent de l'imagination. Moi, je lui dis, mais non, il y a une réalité quelque part, et à partir de cette réalité, que lorsqu'il naît un monstre avec proboscide, par exemple, dans une campagne, c'était ça le problème que Jacques Roger, par exemple, a bien développé. Quand un monstre de ce type naît dans une campagne lointaine où le médecin reçoit les témoignages qui passent d'une personne à une autre, qui sont souvent des autorités pour donner une solidité à la naissance d'un tel monstre, il est évident qu'après le dessinateur, ben, il dessine ce qu'on lui dit. Il dit, ben, y a un monstre qui est né avec une trompe, ben, ça peut être peut-être un éléphant, hein, pourquoi pas. Et donc on peut, dans la vision, et également on peut voir une syndactylie peut-être dans ses représentations, mais ça c'est tout à fait mon imagination à moi, la représentation que je peux me faire de cette figure qui est une figure fantastique, une figure surréelle, pour donner peut-être une réalité quelque part à l'origine de l'interprétation qui a été faite par les médecins à cette époque. C'est là. Voilà, on a aussi, tout à l'heure, on en parlait du siapode, hein, ces fameuses populations. Alors c'est intéressant parce que souvent dans ces populations, on voit que les hommes, c'est rare. Alors il y a eu des représentations avec des femmes où on a dans les panotties ces formes avec des très grandes oreilles. On a sur une habille romane, on a en effet un homme, une femme et un petit avec leurs grandes oreilles. Vous savez, on pensait qu'il y avait aussi une population avec des grandes oreilles où ils se protégeaient avec leurs oreilles. Enfin, il y avait toute une histoire, c'est toute la légende des populations d'hommes monstrueux qui habitaient toujours dans des contrées très lointaines qu'on n'arrivait presque jamais à découvrir, mais ils existaient, ils avaient une existence. Et les siapodes, quelle est l'origine des siapodes? On peut penser que ça peut être la vision des sandous, hein, qui étaient toujours sur une patte, ou bien l'observation de monstres réels, hein, des monstres monopodes, des siréniens monopodes ou sympodes ici avec deux jambes. Donc, ou bien de l'imagination. Voilà. Alors, cette histoire, je raconte ça parce que... oui, alors bon, ça, pour donner une explication un peu plus scientifique, parce qu'on a pu plus tard reproduire tout à fait ces formes de siréniens, sympodes ou monopodes, en faisant des irradiations à une époque bien particulière de l'embryon de poulet. On reviendra tout à l'heure rapidement sur cette question. Il y a des artistes qui sont intéressés aux siapodes. On a représenté donc les siapodes. On a représenté les siapodes. Et alors, est-ce de l'imagination ? Ou est-ce à partir d'une réalité? Et toujours avec, le discours que j'avais avec Jean Séard, nous étions une fois à une grande exposition internationale d'art contemporain, et je vois Desiapod, un sculpteur qui avait fait Desiapod en résine. Alors je vais le voir, je dis là, il y a un exemple. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Non, je lui dis, vous connaissez Desiapod, toute cette histoire ? Il me dit, oh non, j'en ai entendu parler. Et alors, pour l'origine de vos sculptures, il me dit, j'étais en train de dessiner. Et d'un seul coup, je me suis mis à faire un dessin d'un homme avec une seule jambe. Et il y a ma femme qui m'a dit, mais tiens, ce serait intéressant si tu en faisais des sculptures. Voilà. Alors là, on est dans l'imagination. Mais on peut aller peut-être un peu plus loin. Est-ce que c'est vraiment de l'imagination ? Est-ce que lui, quelque part, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui font ce genre de sculpture, est-ce qu'il avait déjà dans sa tête cette idée et cette image qu'il a retransmise ? Et voilà, donc on reste toujours dans des interrogations. Toujours est-il, imagination ou réalité ? Voilà, la question se pose toujours. On a évoqué tout à l'heure les cyclopes qui sont représentés. L'Aroman, vous savez, l'Aroman a beaucoup représenté ces populations, ces exemples. Il y avait un exemplaire ou un peu plus, ces exemples de populations monstrueuses. Et on a aussi l'histoire de crânes d'éléphants. Hein, au niveau de la sortie de la trompe, on a pensé à ces géants cyclopes qui pouvaient venir de là. Puis on a des tas d'explications. Et puis il y a toujours la réalité du cyclope, qui sont des tératologies létales et qui sont reproductibles. On en dira un mot tout à l'heure. Bon, je n'ai pas trop insisté. Il y a ici la tête, l'œuf. Alors, ça, c'était intéressant parce que pendant longtemps, vous pouvez se demander, mais cet œuf à tête de femme, vous avez cette représentation que vous connaissez bien. Est-ce qu'on pouvait donner une réalité à cette représentation ? C'est une servante qui ouvre des œufs et qui, dans un œuf, trouve une tête humaine. Et alors, c'est dans une campagne. Aller chez un notaire, le notaire en témoigne lui-même, est-ce qu'il l'a vu ou pas, on n'en sait rien, et c'est transmis comme ça à des autorités qui donnaient qui sanctionnaient certainement la réalité jusqu'à temps que le médecin en ait le témoignage pour pouvoir le dire au dessinateur et que le dessinateur va dessiner dans un œuf une tête de femme avec des cheveux de serpent, ou d'un homme plus exactement, parce qu'il a également une barbe de serpent. Mais on peut imaginer, vous voyez, la servante qui régulièrement fait de la cuisine, casse les œufs, qui un jour elle est tombée sur un œuf qui était incubé, un œuf de 5-6 jours incubé. Et quand vous regardez cet œuf, vous voyez l'embryon avec son œil ici et les battements du cœur. Donc quand vous ouvrez un œuf d'un embryon de 5-6 jours, vous voyez tout ça, ça bouge. Et ça a pu impressionner cette servante qui n'avait peut-être jamais vu un embryon de poulet, un œuf incubé. Donc voilà peut-être dans l'interprétation que je peux me faire ici d'une représentation tout à fait imaginaire sur laquelle on a formulé énormément de discours, comme les Chétis, si vous regardez les Chétis, ce qu'ils racontent, on pourrait passer un long moment autour de cette femme à tête de serpent. Le monstre de Ravenne aussi, alors celui-là va m'intéresser un instant, le monstre de Ravenne qui était le type de monstre qui avertit d'un danger. Là, on est bien dans l'histoire de ces monstres assez extraordinaires. Souvent, la naissance d'un monstre, ça signale une faute. Hein. On a cet enfant demi-homme, demi-chien qui sanctionnait la faute d'une femme qui aurait commis un acte de bestialité. Donc, on a toujours le monstre quelque part. Il n'est pas tout seul comme ça. Il a toujours une explication dans une sanction, dans un projet. Et ici, le monstre de Ravenne, dans ses débuts, il est assez diabolique. Et petit à petit, on pourrait dire qu'il se néoténise dans la mesure où il rajeunit. Chez Paris, on le représente avec un visage charmant. Il a les deux sexes, il est représenté comme un exemple d'hermaphrodisme. Mais ce qui m'avait intéressé, et ce qu'on ne voit pas peut-être toujours, c'est le placement des ailes. Quand vous voulez faire l'interprétation d'une telle figure, on s'interroge pas sur la place des ailes. Ici, c'est des ailes de chauve-souris, ici, c'est des ailes d'oiseau. Mais tout biologiste va penser, s'il focalise sur ses ailes, mais il y a peut-être, on va rentrer dans le concept de ce que Geoffroy Saint-Hilaire appelait les analogies, qu'on a appelées plus tard les homologies. Donc, il y a une rationalité scientifique dans cette représentation anatomique que le dessinateur ou que le médecin de l'époque ne pouvait pas du tout avoir. Mais elle est ici présente. Bon, on peut, si on veut, donner plus de poids à ce genre d'interprétation, rappeler cette phrase de Gauguin qui disait « L'artiste ne doit pas copier la nature, mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément. » Hein, donc, on peut imaginer. Et à ce moment-là, si on reprend notre monstre de Ravenne, on peut en effet lui retirer tous ses éléments. Hein, avec, il a des ailes d'aigle ou de chauve-souris, il a des pattes d'aigle. On peut imaginer aussi que ses bras, à partir des épaules, mais c'était peut-être un enfant qui avait une phocomélie, hein, pourquoi pas, et on lui a mis des plumes ou des ailes de chauve-souris, et cette jambe unique pouvait encore rappeler de nouveau soit un cyapode, un sirenia, monopode ou bipode. Voilà, et ensuite on peut remettre bien sûr ces objets et recréer notre monstre de Ravenne. Il n'a pas les ailes dans le dos, les anges, il est là le monsieur qui parlait des anges tout à l'heure. Les anges, c'est une. Vous savez que dans la Bible, les anges, c'est une entité, ça n'existe pas, hein, c'est un ray de lumière, c'est un ray de lumière, et les anges n'ont pas d'ailes. C'est une conception ancienne qu'on a représenté des ailes et des bras en même temps. Les ailes sur les omoplates. Si on va voir la génétique avec les homéobox et tout ça, c'est quelque chose de, pour l'instant, difficile à concevoir. Un petit coup d'œil à Mélusine, hein, qui est pas loin d'ici, l'envol de Mélusine avec ses ailes de chauve-souris. Voilà, donc il y a tout un discours à tenir autour de ça pour vous montrer l'aspect anatomique que l'on pouvait tirer dans l'observation du monstre de Ravenne. Avec ces théories de l'homologie, on a toujours donc ces structures. C'est toujours la même structure du bras, que ce soit chez le phoque où la main devient une nageoire, mais on a toujours l'humérus, le radius et le cubitus qui sont en place avec les doigts. Hein. Donc on a une rationalité dans cette représentation, dont on peut dire beaucoup de choses, bien entendu. Et le monstre de Ravenne avait quelque part une rationalité que le dessinateur, le médecin ne pouvait pas concevoir, mais que nous-mêmes, nous pouvons concevoir. Bien sûr, ça reste une conception tout à fait personnelle, à partir de laquelle on peut, bien entendu, discuter. Alors, raconter les monstres, on peut les raconter, il faut les regarder, bien sûr, pour les raconter. On va forger des lois organiques pour expliquer les monstres, leur origine, parce qu'il faut bien donner quelque part une explication à l'origine et à ces naissances de monstres. Alors on va fonder une science, comme je vous l'ai expliqué, la tératologie. Et cette science va se développer en tératogénie à partir de l'instant où on va essayer de faire de l'expérimentation, de mieux comprendre le mécanisme de la monstruosité. Et on va fabriquer des monstres, non pas pour le monstre lui-même, mais pour essayer de comprendre une normalité. Ça va être l'embryologie expérimentale ou causale ou expérimentale. Et enfin, on va vraiment créer une tératogénèse qui va vraiment expliquer l'origine organique à partir de l'embryon de différentes malformations et monstruosités. Voilà. Et puis, si on arrive à une fin des monstres, ça, voilà, ça sera une question finale. Dans l'embryologie expérimentale, c'était une science qui commence au début des années 80. Et qui va perdurer. L'embryologie expérimentale a fait énormément de monstres. On a fabriqué énormément de monstres, mais on ne s'est pas intéressé aux monstres. On faisait des monstres simplement pour essayer de comprendre le développement normal. Et on va faire ces monstres à partir des tout premiers développements de l'œuf, quand l'œuf, après la fécondation, commence à fabriquer ses deux premières cellules, qu'on appelle des blastomères. On va faire ces deux cellules, ces 3, 4, 6, 8, 10 cellules. Et un personnage va jouer un rôle important dans cette embryologie expérimentale, c'est Laurent Chabry qui, dans sa thèse, va... Alors, là, l'expérimentation devient un peu complexe. On travaille sur l'œuf d'acidie qui fait environ 200 microns, c'est-à-dire c'est moins d'un millimètre, hein, c'est tout petit. Donc, pour pouvoir expérimenter sur cet œuf, il invente tout un appareillage. Et cet appareillage va permettre sous le microscope... Cet appareillage va permettre sous le microscope de placer un œuf et de pouvoir tuer, quand cet œuf a 2 cellules ou 4 cellules, de tuer une cellule après avoir fabriqué des aiguilles extrêmement fines qui font 2-3 microns. Donc on va pouvoir sphaceller, comme il dit, tuer un blastomère au stade 2 ou 4. Et une fois qu'il y a un blastomère qui est tué, il observe le développement de l'œuf et il voit que lorsqu'il a tué un blastomère, eh bien, au stade 2, l'œuf ne produit qu'un demi-embryon. S'il tue un blastomère au stade 4, eh bien, il y a des malformations d'organes spécifiques. Donc il peut déterminer qu'au début de la fécondation, l'œuf contient tout le matériel du futur embryon, du futur organisme, et que la division cellulaire ne fait que partager ce matériel. On va être donc dans ce cas de ce qu'on va appeler, la néopréformation. C'était l'interprétation que les embryologistes vont donner pour ces types d'expériences, hein, dans la mesure, encore une fois, où chaque blastomère aurait une partie de l'organisme futur, et la division cellulaire de l'œuf ne ferait que partager ce matériel. L'œuf est dit anisotropique. Et une autre expérience, alors cette expérience a inspiré d'autres embryologistes qui ont travaillé sur un autre matériel qui est l'oursin. Et quand on fait la même expérience avec l'oursin, où on prend un œuf d'oursin à 2 cellules et on sépare une cellule, eh bien on a de nouveau, on a un embryon tout à fait normal. Si on fait ça à 4 cellules, si on prend une cellule, si on sépare en 4, on aura 4 petits oursins tout à fait normaux. Donc là, l'œuf d'oursin sait réguler le geste que l'expérimentateur a fait et donner un être parfait. Donc là, on dit que l'œuf régule, contrairement à l'œuf d'acidique sur lequel travaillait Chabry, l'œuf régule et peut réparer donc les dommages que lui a causé l'expérimentateur. Là, on était dans le cas donc, d'une néoépigénèse. Alors, c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans cette fin du 19e siècle avec 2 théories opposées, néopréformation, néoépigénèse, comme on l'était au 19e siècle, au 18e siècle, avec les fameuses théories de la préexistence des germes, préformation et épigénèse. Donc, on se retrouve par des résultats expérimentaux dans des grands systèmes théoriques qui ne sont pas simplement dus à la lecture du résultat scientifique, mais qui sont dus beaucoup à l'idéologie du scientifique qui interprète le résultat. Et un même résultat peut être interprété d'une façon différente suivant l'idéologie du scientifique. Même le cas de Chabry, on va dire, ben non, il peut y avoir régulation, c'est une expérience. Et il y aura une régulation, on va démontrer une régulation avant la fécondation. Mais ça, c'est une expérience. On n'a pas le temps ici d'en parler. Voilà, donc c'était intéressant de savoir qu'il y a des œufs qui peuvent réguler, ce qui a permis de mettre en place le DPI, le dépistage préimplantatoire, parce que si l'œuf humain réagissait comme l'œuf d'acidite, c'est-à-dire s'il ne savait pas réguler, on ne pourrait pas faire du dépistage préimplantatoire. Parce que si on retirait une cellule de l'œuf humain, eh bien, l'œuf humain, il serait anormal, il donnerait un embryon anormal. Là, on peut extraire un blastomère de l'œuf humain, pouvoir analyser cette cellule, dire si c'est un garçon ou une fille, par exemple, à ce moment-là, on ne va pas implanter s'il y a une pathologie liée au sexe. Généralement, c'est le sexe mâle. Donc, si c'est un garçon qui est dans cet œuf, on ne va pas l'implanter. Donc, vous me dites 5 minutes, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, l'intérêt qu'il y a eu à faire ces expériences qui peut arriver donc jusqu'à une conception médicale actuelle. L'embryologie expérimentale, vous avez un personnage comme Étienne Wolff qui a vraiment fait ce qu'il a appelé de la tératogénèse expérimentale, et c'est lui qui, le premier, encore avec un appareillage assez complexe, pouvait irradier certaines parties de l'embryon de poulet, et à ce moment-là, on pouvait expliquer et faire une carte sur l'embryon de poulet des différentes régions qui étaient irradiées, montrer les différentes malformations et tératologies qui pouvaient être situé, localisé, comme à l'époque, hein, on avait fait une carte sur les chromosomes géants de la drosophile, où on avait situé les différents caractères génétiques qui pouvaient atteindre la génétique. Donc on était dans cette période de cartographie des régions tératogènes ou des régions de malformation ou de caractères génétiques. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. J'aurais voulu quand même vous parler de cette histoire de Péroné. On a fait une expérience qui était vraiment de l'expérience morphologique où on prenait, vous savez, chez le poulet, ce qu'on appelle la cuisse, en fait, qui est la jambe, hein, qui est formée du tibia et d'un péroné. Chez les oiseaux, le péroné est réduit. Vous l'avez remarqué, hein, le péroné réduit, vous avez tous mangé des cuisses de poulet. Et si on fait cette expérience suivante, oh là là. Je prends un embryon de poulet dans les 72 heures, je crois, 68, 72 heures, peu importe. Les ébauches de la patte, hein, c'est métatarse, tibia, fémur. Si je prends un embryon de poulet et que je retire l'ébauche tibia, je remets l'ébauche métatarse du pied, j'obtiens un poulet qui n'a plus de péroné. Si je fais l'expérience inverse, je vais rajouter du matériel sur une ébauche de patte de poulet. Je rajoute une ébauche tibia, fémur, métatarse et j'obtiens un embryon de poulet avec un péroné entier. Ce que j'obtiens, Wolf appelait ça de la paléontologie expérimentale, j'obtiens donc un poulet qui n'a plus de péroné, c'est-à-dire c'est le futur, c'est un futur de l'oiseau, où j'obtiens un oiseau avec un péroné complet, ça rappelle l'archéoptérique, c'est-à-dire l'origine des oiseaux. La normalité est celle d'aujourd'hui, que vous connaissez, et on a ici, on crée une normalité future, mais qui est une anormalité d'aujourd'hui, et on recrée une normalité passée, qui était la normalité du passé, mais on crée une anormalité du présent. Voilà, donc c'est un aspect amusant de. Pour finir, vous êtes content, je vois. Pour finir, un rappel de Ansel, qui à partir de 1944. Il avait une fille qui était pharmacienne, donc il pouvait disposer d'un certain nombre de substances chimiques. Et c'est le premier qui va, avec une quantité énorme de substances chimiques, tester ces substances chimiques sur le développement de l'embryon de poulet. Et là, il va trouver énormément de malformations qui vont être produites par ces substances chimiques. Souvent des mutations assez spécifiques. Il va, la substance 6, il va donner des malformations uniquement des pattes, une autre, ce sera de la tête, etc. Hein, comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas faire les détails. Et Ansel avait bien mis, quand il publie son livre en 1950, les risques, c'était sous-entendu, les risques, combien la chimie pouvait avoir de résultats négatifs sur l'embryon dans la mesure où elle pouvait produire des malformations, des tératologies. Et vous savez, le premier exemple, c'était celui de la thalidomide, quand on a lancé la thalidomide en 1957, qui était destinée aux enfants. Quand les enfants étaient un peu agités, on leur donnait de la thalidomide pour les tranquilliser. Et on s'est aperçu, quand on donnait la thalidomide aux femmes enceintes pendant les débuts, ça les soulageait des inconvénients de ces premiers temps de grossesse. Le problème, c'est que ce sédatif avait un effet tératogène spécifique sur le développement du membre antérieur ou postérieur. Donc on connaît un peu les mécanismes aujourd'hui de la tératologie de cette substance chimique. On compte à peu près 15 000 à 20 000 victimes, hein, de, Sauf en France, on a appelé en France, parce que vous savez, en France, il faut des tas de certificats pour donner la permission à un médicament. Et apparemment, on dit que c'est l'administration qui a été longue à signer l'autorisation de vente de cet thalidomide. Et ce qui fait que la thalidomide a été mise en marché en France un jour, et ils l'ont tout de suite retiré parce qu'il y a eu l'interdiction de vente de cet thalidomide, qui de nouveau aujourd'hui est sur le marché, puisqu'elle sert en effet pour des problèmes. C'est des, voilà. Et en Amérique du Sud, on a de nouveau des malformations, des enfants qui naissent avec ces malformations parce que la thalidomide est prise un peu n'importe comment. Donc, la thalidomide a permis donc de mettre tout en place ce qu'on appelait la pharmacovigilance, des détections des substances chimiques tératogènes chez l'homme. Et la première conséquence, c'était bien sûr l'interdiction de toucher une femme enceinte et de lui donner combien de secondes ? 0 secondes, 30 secondes. On pourrait, pour continuer, parler de la dioxine. Et alors là, on rentre plus peut-être dans un aspect sociétal, hein, de tous les problèmes de l'agent orange, hein, de tous ces millions de litres qui ont été déversés, de toutes ces victimes qui ont été dues à la dioxine. On l'a considéré comme le deuxième écocide. Hein, le premier, bah, ça pouvait être la bombe atomique, hein, l'atome. Qui était quand même quelque chose, qui sont des crimes commis par l'homme, contre l'homme. Et bon, on punit personne pour ça. Voilà. Et on continue. Hein, là, on peut se poser toujours des questions. Il n'y a pas de démonstration vraiment scientifique sur des fois les effets tératogènes, mais on a sur les pourcentages de naissances, de fausses couches, et des, voilà, donc, qui peuvent tenir. Hier, donc, le monstre de Ravenne pouvait avertir d'un danger. Aujourd'hui, la naissance d'un monstre témoigne. Il n'avertit plus, mais témoigne vraiment d'un risque qui est en place. C'était intéressant de pouvoir. On a eu des discours. Bon, je me dépêche. Hein, sur ce qu'on appelait les monstres douves, les frères Sermois. Pouvait rendre une normalité, il y avait une anormalité, de pouvoir rendre une normalité à cette normalité. On l'a fait dernièrement, le 13, vous êtes peut-être au courant, hein, le 13 novembre, il y a eu une opération de ces, alors on les a appelés, c'est des sœurs siamoises camerounaises. Voilà, donc vous voyez toute la siamoise camerounaise. Bon. Toujours est-il, l'opération, il y avait une équipe de 20 médecins collaborateurs qui ont réussi donc à séparer ces fillettes qui n'avaient pas une attache très très importante, mais enfin bon. C'est une idée très ancienne, hein, déjà en 1902, Doyen, un médecin, faisait exactement ce type d'opération. Et vous voyez, à l'époque, les médecins, ils étaient en bras de chemise, sans max, sans rien. Bon, il faut dire que ces fillettes n'ont pas vécu très longtemps. Voilà, alors le 21e siècle, hein, le monstre témoigne. Hein, il y a des conflits de guerre. Voilà. Et Wolf écrivait, il est permis de penser que les progrès de la tératogénèse permettront non seulement de mieux comprendre la genèse des malformations, mais encore de remédier aux lourds tributs et à la grande pitié des naissances monstrueuses. Voilà, on a oublié tout ça. Et aujourd'hui, on est dans le départ des hybrides. Hein, ce sont ces hybrides homme-animal. On en fabrique. Aujourd'hui, le Japon et la Chine vont au-delà des 14 jours, qui était normalement une limite qui était accordée. Et donc, on peut prendre un cytoplasme d'ovocyte de vache, on retire le noyau et on met un noyau fécondé humain. Et on met ça en culture. Voilà, donc les hybrides de la fiction, bien, les cynocéphales reviennent dans l'imaginaire des artistes. C'est une autre interprétation, hein, de ces hybrides de 14 jours. Voilà, merci, j'étais un peu vite. Merci.
Bien, donc, merci. Donc, désolé de vous avoir brusqué un petit peu donc, pour terminer votre propos. Oui, bien sûr. Alors, donc, nous allons maintenant écouter donc, Nicolas Buchmester. Alors, comment le présenter ? C'est assez difficile parce que tout le monde le connaît. On pourrait presque dire que c'est le côté suisse de l'université. Il a contribuer à la fois au manuel de biologie moléculaire, exercice et méthode, voilà, dont on peut toujours faire l'acquisition. Mais il est aussi, par exemple, la cheville ouvrière de l'association donc, BD86, dont il est le vice-président et qui organise donc chaque année le festival de Louis Guget, qui doit en être à sa 24e édition, si j'ai bien compris.
Il va faire sa 25e cette année.
Voilà. La 24e fête et la 25e à ligne d'horizon. Absolument. Très bien.
Avec un habitué.
Bon, Nicolas, pour 30 minutes, en posture debout aussi. Et...
Ouais, en posture debout.
On va essayer, oui. Très bien. Alors, je vais attraper la chose. Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais vous parler de quelque chose de relativement... un concept assez compliqué, mais en même temps, je vais essayer de le rendre le plus simple possible, parce que je sais qu'il y a très peu de gens qui sont familiarisés avec la biologie, donc on va essayer d'être très, très simple. Alors, évidemment, on va parler de monstres quand même, même si ce terme de monstre, on l'a vu, surtout par rapport à la médecine d'aujourd'hui, on est plutôt en train de parler de monstruosité que de monstre. Il est très, très compliqué aujourd'hui de monstrer des êtres humains qui ont des malformations comme... étant des monstres. Donc ce sont des monstruosités, mais évidemment pas des monstres. Et donc le thème de la journée, c'est « Y a-t-il un monstre dans vos gènes ?» Et donc on va commencer par reprendre un petit peu les éléments que vous avez vus jusqu'à présent. Les monstres dans l'Antiquité, on avait affaire à des monstres de type plutôt hybride avec des animaux et des humains. Vous voyez ici des sirènes qui obligent Ulysse, qui veut entendre leur chant, à s'attacher à sa barque. Vous aviez donc le fameux Polyphème dont on a parlé tout à l'heure, le Cyclope, cette magnifique sculpture qui a été retrouvée à Baïa dans une grotte sous-marine. Ici, vous avez la Méduse, le Minotaure, bien entendu, et puis d'autres types de monstres plus récents, des griffons ici, le loup-garou, qui est un grand classique, et puis la littérature et le cinéma, la bande dessinée qui fourmille aujourd'hui de tout un tas de monstres divers et variés, que ce soit des monstres plus ou moins synthétisés par l'homme, ou pas d'ailleurs, puisque ici vous avez des mutants, hein. La série X-Men est extrêmement intéressante sur ce plan-là. Vous avez évidemment Game of Thrones ici, et puis les fameuses striges de notre ami Richard, ici présent. Donc, en fait, moi, je ne vais pas vous parler de ces types de monstres-là. Je vais vous parler plutôt de monstres qui sont effectivement nés au cours de l'embryogenèse. Et au cours de l'embryogenèse, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Jean-Louis Fischer, il y a des programmes qui se mettent en place, des programmes prédéterminés. Vous l'avez vu, quand on enlève une cellule sur deux dans un certain nombre de types d'embryonnaires, eh bien, on n'a que la moitié de l'embryon, donc ça veut dire qu'il y a un programme qui est là et qui va se lancer jusqu'au bout. Donc ces programmes permettent la mise en place de parties du corps, et quand ces programmes, en fait, sont dégradés, eh bien, on va avoir une perturbation. Il manque un bout de l'écran. Je pense que, malheureusement, il va y avoir des choses peut-être un peu perdues, mais ce n'est pas grave, je vous expliquerai. Les causes, eh bien, de ces dégradations de programme, elles sont parfois environnementales. C'est le cas actuellement avec ce rapport-là qui vient d'être rendu sur les agénésies des membres supérieurs, qu'on a pu constater dans un certain nombre de départements en France ces derniers temps, pour lesquels les causes ne sont encore pas totalement identifiées, même si on a un certain nombre de pistes. Et puis, ces causes, elles peuvent être également génétiques. Et à ce moment-là, vous allez avoir des modifications génétiques qui vont conduire à un certain nombre de modifications. Vous avez ici des syndactylies et des polydactylies, des modifications de la position de l'oreille ici, et puis un bébé qui a quatre bras. Donc vraiment des choses tout à fait à la fois extraordinaires, mais qui ont une explication biologique tout à fait concrète. Dans le cadre de la construction du corps, qui nous occupe quand même aujourd'hui, les programmes sont de fait extrêmement conservés entre les espèces. Quand on prend des embryons de différentes espèces, ici poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux ou mammifères, eh bien, globalement, la forme de ces embryons est très très proche des, les unes des autres. On a donc probablement une façon de créer le corps dans chacune de ces espèces qui est commune. Il y a des programmes tout à fait communs qui se mettent en place pour permettre ensuite, au cours du développement, d'avoir ces espèces totalement différentes, qui ont des caractéristiques au final totalement différentes, mais qui sont basées sur un programme de départ qui est totalement commun. Ces programmes, ils sont évidemment contenus dans les gènes. Ce sont les gènes qui portent ces programmes. Et la question maintenant, il va falloir définir ce que c'est qu'un gène. Parce que si je pose la question à un certain nombre de gens dans la pièce, je ne suis pas sûr que les réponses seront satisfaisantes. Qu'est-ce que c'est qu'un gène ? Un gène, c'est quoi ? Si on regarde ce que dit Wikipédia, un gène est défini comme une séquence d'ADN susceptible d'être transcrite en ARN. Bon, déjà, je pense que j'ai perdu la moitié de la place, de la salle. Donc, c'est une séquence d'ADN qui va être transcrite. On va voir dans deux minutes ce que c'est que la transcription. S'il est ensuite traduit en protéine, la séquence est dite codante. Bon, c'est la définition. On va comprendre. On est devant des littéraires ici, donc les mots ont un sens. On va parler de transcription ici et on va parler ensuite de traduction. Il s'agit donc de phénomènes, de mécanismes que la cellule va organiser et qui vont permettre de passer, finalement, de l'ADN, qui constitue le gène, par le biais de la transcription, à un élément qui est formé de choses tout à fait semblables à l'ADN. L'ADN, c'est un code à quatre bases, donc les quatre lettres A, T, C, G. Et lorsque vous transcrivez en ARN, eh bien, vous réécrivez exactement la même chose. Oh là là, il y a tout qui est maintenant visible. Au secours, vous avez une réécriture, mais avec non plus de l'ADN, mais de l'ARN, c'est-à-dire vous avez changé de molécule simplement, mais c'est une écriture identique, toujours avec quatre lettres. Et puis, vous allez maintenant traduire pour fabriquer autre chose. Et vous allez fabriquer quoi ? Vous allez fabriquer des protéines à partir de ces éléments ici, que sont les ARN. Donc, vous allez maintenant écrire avec un autre type d'éléments chimiques, que sont les acides aminés. Et donc, vous allez traduire ce que contenait le message que contenait l'ARN en protéines. Donc, le gène contient l'information sous forme de code à quatre lettres, d'accord, qui permet ensuite d'obtenir des protéines. Donc, on a un système qui est donc linéaire entre le gène et la protéine. Mais le gène, ce n'est pas seulement une séquence codante. La séquence codante, vous l'avez ici dans l'ARN messager à la fin, d'accord ? Une partie de l'ARN messager ici comprend la séquence qui va coder pour la protéine que vous allez avoir à la fin. Mais en fait, il y a tout un processus qui consiste à retirer tout un tas d'éléments qui sont au départ lus dans le gène de départ et qu'on va retirer pour en fait ne garder au final que les parties codantes que vous avez ici en rose. Donc les parties en blanc qui ne sont pas codantes sont retirées au fur et à mesure. Mais le gène lui-même est quelque chose de beaucoup plus long. Vous avez cette partie qui va être dite transcrite, qui correspond à l'ARN messager ici, mais en amont ici de cette séquence d'ADN, eh bien, vous avez tout un tas de séquences très importantes qui vont réguler le fait de transcrire cette partie qui est codante. Donc, vous allez avoir ici, en amont, tout un tas d'éléments de l'ADN qui vont porter des séquences qui seront elles-mêmes reconnues par des protéines qui vont venir se fixer dessus. C'est ce qu'on verra sur la diapo suivante. Protéines qui vont, vous avez ici l'ADN, d'accord ? Vous avez la partie codante ici, avec la transcription de l'ARN messager qui va commencer à cet endroit-là. Vous avez une enzyme qui va fabriquer ce brin d'ARN ici à partir de la lecture de la région codante, d'accord ? Et puis, vous avez tout un tas de protéines qui viennent se lier ici pour permettre à la polymérase, donc qui est cette enzyme, de démarrer. Et le démarrage, il se fait par le biais d'un certain nombre d'autres protéines qui vont, elles aussi, se lier à l'ADN, à des endroits souvent très éloignés du début de la transcription. Et ces protéines sont des activateurs, des facteurs, on appelle ça des facteurs de transcription, qui peuvent être soit des activateurs, soit des répresseurs, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer la polymérase. Donc vous allez avoir des signaux multiples qui vont provenir de ces éléments répresseurs ou activateurs qui vont permettre soit d'obtenir la transcription, soit de l'inhiber. Donc un système de régulation de l'expression des gènes par le biais de ces protéines. Lorsque mon gène a été transcrit et que je fabrique ma protéine et que cette protéine est justement un facteur de transcription, eh bien, ce facteur de transcription, eh bien, il va pouvoir agir maintenant sur d'autres gènes. Et il va agir sur ces autres gènes en faisant quoi ? Eh bien, pour certains, il va activer leur transcription de manière plus ou moins importante. Vous allez avoir certains gènes qui vont être très fortement transcrits, d'autres pour lesquels la transcription sera un peu plus faible, et puis d'autres gènes dans lesquels la transcription sera très clairement inhibée. Donc, le même facteur de transcription peut agir à la fois comme un activateur sur certains gènes et comme un répresseur sur d'autres. Donc un système de régulation par le biais d'un signal d'aval qui permet d'avoir une répartition des actions en aval avec activation d'un côté et répression de l'autre. Ça va, je suis clair ? Alors, ces facteurs de transcription, ils se lient effectivement au double brin d'ADN. Et vous le voyez ici, vous avez un facteur de transcription particulier, enfin une partie d'un facteur de transcription, qui est en fait une homéoprotéine, ces fameuses protéines à homéobox. Donc ces protéines à homéobox, elles se lient donc sur ces séquences d'ADN très particulières. Donc vous avez des séquences véritablement qui sont reconnues par ces éléments et vous allez avoir cette hélice d'acides aminés ici qui va se fixer sur ces acides nucléiques que sont l'ADN. Alors, Jean-Louis tout à l'heure vous l'a dit, quand on a un embryon qui se met en place, il y a un programme qui se met en place très très rapidement et ce programme, c'est un programme qui va en fait rapidement définir des axes. Vous allez définir très rapidement un axe antéro-postérieur. Vous allez définir un axe dorso-ventral. Et vous allez définir un axe latéral, gauche-droite. Donc vous avez trois axes qui sont extrêmement importants dans la mise en place de l'embryon. Et ce que vous avez ici sur ces différentes images, eh bien, c'est l'expression d'un certain nombre de facteurs de transcription, hein. Alors, je ne les ai pas nommés parce que c'est d'une complexité monstrueuse, mais chacun de ces facteurs de transcription différents a un pattern d'expression qui est très spécifique d'une zone donnée de l'embryon. Vous voyez que celui-ci, il est au niveau ventral, d'accord ? Et il ne touche absolument pas le niveau dorsal. Il s'appelle twist. Ici, vous avez un élément de facteur de transcription qui s'exprime uniquement du côté antérieur et vous en avez d'autres qui vont s'exprimer plutôt du côté postérieur. Vous en avez ici un qui est dorsal, un qui est purement latéral ici et puis d'autres qui vont agir en segment ici. Et plus on va avancer dans le développement de l'embryon, plus ces stries ici vont devenir de plus en plus fines avec d'autres facteurs de transcription plus en aval les uns des autres, qui vont, au fur et à mesure, donner des zones de plus en plus précises. Alors, chez la drosophile, donc la mouche du vinaigre, qui est un organisme de recherche vraiment qui a été extrêmement étudié pour ces éléments-là, Eh bien, en fait, vous avez ce qu'on appelle un effet maternel avec des facteurs de transcription qui sont présents, en fait, dès le départ dans l'œuf, avec une répartition au niveau de l'œuf, au niveau spatial dans l'œuf, qui vont définir dès le stade de l'œuf, au moment de la fécondation, l'avant et l'arrière du futur embryon. Et ces éléments, ces bicoïdes ici et nanos, qui vont permettre, la mise en place, en fait, d'autres éléments que sont caudal ici et hunchback, hein, le bossu. Vous avez ici donc deux autres éléments qui vont former un gradient antéro-postérieur inverse. Caudal vient de la partie caudale, hunchback vient de l'avant. Et la présence de ces facteurs de transcription va agir sur les cellules qui sont ici au niveau de ces différentes zones et vont permettre, par le biais justement de cette capacité qu'ont ces facteurs de transcription, d'agir sur l'ADN en fonction de leur concentration pour permettre l'émergence ou pas d'un certain nombre d'autres éléments qui vont définir ces fonctions futures qu'auront ces zones de l'embryon. Alors, c'est là que interviennent, un peu après ce que je viens de vous montrer chez la drosophile, la mise en place, finalement, d'une forme de segmentation de l'embryon. Et cette segmentation de l'embryon, elle est liée à ce qu'on appelle les gènes homéotiques, hein, les gènes HOX, qui sont des facteurs de transcription, eux aussi. Ces facteurs de transcription, ils sont, et c'est là que c'est très intéressant, situés sur un même chromosome, et les gènes sont successifs les uns derrière les autres. Vous avez en fait ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un regroupement de gènes qui sont situés les uns derrière les autres et qui forment une chaîne, comme vous avez ici. Et cette chaîne, eh bien, on le constate, correspond à la fin à l'endroit où les différents facteurs de transcription vont s'exprimer au niveau des différents segments. Le premier ici, qui s'appelle lab pour labial, eh bien, est exprimé uniquement ici. Le suivant est exprimé uniquement ici. Le suivant ici est exprimé ici. D'accord ? Et ainsi de suite, on peut continuer. Donc ici, pardon, le blanc ici. On continue avec antennapédia ici, ultrabithorax ici, abdomen A et abdomen B, voyez. Donc, vous avez une correspondance entre la position au niveau du chromosome et la position, au final, dans l'embryon de ces différents segments. Alors, attention, hein, projetez-vous. Ceci, c'est dans chacune des cellules, d'accord. Et donc, il n'est pas question d'avoir, évidemment, ce brin d'ADN qui court le long de l'embryon, d'accord. Tout ceci est dans chacune des cellules qui vont constituer les éléments qui sont là. Donc, il va falloir que chacun de ces gènes s'exprime de manière très sélective à un endroit donné et pas les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend ces éléments génétiques de gènes homéotiques, ces gènes HOX, qu'on trouve chez la drosophile, ici, et qu'on regarde... Par exemple, j'ai pris la mouche, mais j'aurais pu prendre l'humain, c'est exactement la même chose. Eh bien, nous avons des correspondances très fortes de ces gènes HOX qui sont présentes chez les mammifères supérieurs. On va les trouver chez les poissons, on va les trouver chez toutes les espèces, en fait. Donc vous avez, en fait, ces gènes ici qui sont présents et qui définissent les secteurs de la mouche, des gènes ici qui vont définir exactement les mêmes types de secteurs chez l'embryon de mammifère. Et vous avez exactement les mêmes correspondances, vous le voyez ici, hein, avec des éléments supplémentaires qu'on va trouver ici par le biais de ces duplications en fait de ABD B. Mais en fait, vous avez exactement la même succession. cette fois-ci, non pas au niveau d'un seul des chromosomes, c'est le chromosome 3 de la drosophile, mais au niveau de 4 chromosomes, ce qui veut dire que chez les mammifères supérieurs, cet élément de base a été multiplié par 4, et donc vous avez eu des duplications successives au cours de l'évolution qui ont créé dans le génome ces éléments qui vont agir de concert, on va le voir dans la suite de mon exposé. Alors, ces éléments correspondent exactement comme chez la mouche à une expression au niveau des cellules qui constituent l'ensemble de l'embryon, dont une sélectivité topographique de l'expression de ces gènes. Quand on regarde à la fin ce que ça donne, on constate que les endroits qu'a fabriqué, entre guillemets, chacun de ces gènes par rapport à son expression sont là aussi extrêmement spécifiques. Là, la partie labiale forme ici la partie qui est à l'avant, et puis, et ainsi de suite, vous avez ici ultrabithorax qui forme la partie antérieure de l'abdomen ici de la mouche avec la troisième patte, d'accord ? Et puis vous avez ici antennapedia qui forme cette partie ici avec la patte, voilà, et ainsi de suite. Bon, donc un système qui, au départ dans l'embryon, génère une topologie d'expression et qui, à la fin, génère des structures très particulières. Alors ça génère des structures très particulières, effectivement, parce que si maintenant j'ai une mutation dans un de ces gènes, j'ai une mutation, par exemple, dans le gène antennapedia, ici. Mutation qui fait que ce gène ne va pas s'exprimer seulement ici. D'accord ? Ce gène, dans cette mutation, va bien s'exprimer à cet endroit-là, mais il va également s'exprimer où ? Eh bien, il va s'exprimer ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au lieu d'avoir des antennes, cette mouche, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle marche sur la tête. Elle marche sur la tête parce qu'elle a des pattes à la place des antennes. Donc vous avez ici un exemple typique que lorsque vous avez une mutation de antennapedia, eh bien antennapedia n'est pas modifié en tant que tel, son programme existe toujours, mais il va s'exprimer de manière ectopique, c'est-à-dire au mauvais endroit. Et donc, de fait, vous allez avoir à la place des antennes la mise en place d'une patte. Donc le programme complet se met en place et crée une patte à un endroit où, au départ, vous aviez des antennes. De la même manière, autre mutation, vous faites une mutation sur ultrabithorax ici, et qu'est-ce que vous obtenez ? Au lieu d'avoir une mouche classique avec deux ailes et un thorax ici complet et son abdomen derrière, eh bien, vous avez maintenant une mouche qui n'a plus un seul thorax, mais elle a deux thorax, un, deux, et deux paires d'ailes. Donc, un système qui génère de manière anormale, à un endroit qui n'a pas de raison d'avoir ce type de fonctionnalité, eh bien, on crée l'ensemble du système, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un seul de ces gènes qui va s'exprimer de manière ectopique, eh bien, vous générez le système. Donc, il y a très clairement une coordination spatio-temporelle de l'expression de ces gènes et le développement d'un programme propre qui conduit jusqu'à l'organogénèse finale. Alors, comment ça marche ? Parce que, évidemment, vous avez l'ensemble de ces gènes qui est situé sur un brin unique, très proche les uns des autres, et on est en droit de penser que, finalement, quand ça s'exprime dans une cellule, eh bien, tout devrait s'exprimer exactement ensemble dans toutes les cellules. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait un seul qui s'exprime à un endroit et pas les autres. Alors, la problématique, elle est liée à la façon dont l'ADN se replie. J'ai un peu de temps, ça va ?
Oui. 6 minutes.
6 minutes, oui, ça va, on va faire avec. C'est la façon dont l'ADN se replie. L'ADN, il existe sous plusieurs formes. Vous le voyez ici dans un noyau, vous avez une forme où il est très clair et puis des endroits où il est très foncé ici. En fait, ça dépend de sa façon dont il se compacte. L'ADN, il a la capacité de se compacter. Et donc, vous allez avoir de l'ADN qui est accessible, qui est décompacté ici,
voyez, où on va pouvoir lire les gènes, d'accord ? Et puis de l'ADN qui est très compacté ici et qui peut se compacter de plus en plus de manière importante jusqu'à cette compaction formidable que représentent les chromosomes. Et c'est comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, ce que vous allez avoir, c'est des endroits où l'ADN est compacté et des endroits où l'ADN n'est pas compacté. Et votre système ici, avec vos gènes Hox, eh bien, il va se retrouver au départ dans un système où il est compacté. Et ce qui se passe, c'est que, en fonction du temps, eh bien, vous allez avoir décompaction du début du chromosome, d'accord ? Donc de la partie la plus extérieure, celle que nous avions ici tout à l'heure, je reviens ici. Donc on va commencer par la première partie, d'accord ? Donc vous allez avoir décompaction, passage dans le domaine actif avec des changements évidemment dans la structure de l'ADN par le biais d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas insister parce qu'on n'a pas le temps, mais vous allez avoir transcription du premier de ces gènes dès le départ. D'accord ? Donc, je commence par ça, et puis plus j'avance dans le développement, plus je vais avoir les autres qui vont sortir. D'accord ? Mais au début, je vais avoir le premier, puis ensuite le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un développement qui se met en place au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ce qui se passe en fait sur ces différents éléments, que sont les gènes Hox ici, eh bien, si je suis arrivé à la zone anténopédia, j'ai en fait tous ces éléments qui, vous le voyez ici, s'expriment. D'accord ? Ceux qui sont derrière, ils sont toujours situés dans le domaine inactif, ils ne s'expriment pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, anténopédia code pour un facteur de transcription qui, ah oui, si j'appuie sur ça, ça ne marche pas, qui est un répresseur de l'expression des précédents. Et donc, lorsque j'ai les suivants qui viennent s'exprimer, ils répriment les précédents. Donc, vous avez un système où vous n'en avez jamais qu'un seul qui s'exprime. D'accord ? Quand vous êtes dans un secteur où celui-ci peut s'exprimer, à ce moment-là, les autres, les précédents, ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, c'est un système qui, dans le temps, met en place ce système très spécifique de l'expression à un endroit donné d'un facteur de transcription donné qui va générer un programme. Chez l'homme, eh bien, on a exactement la même chose avec des zones, voyez, qui correspondent à ces différents gènes, et vous avez de la même manière une correspondance antéro-postérieure avec les membres qui correspondent aux éléments les plus éloignés de ces clusters de gènes. J'avance plus rapidement, on va terminer. Lorsqu'on a des mutations chez l'homme, en particulier des mutations des gènes que je vous ai montrés ici, qui sont les gènes de type 13. Ici, c'est D, vous voyez, OXD, 13. Ils sont notés A, B, C, D. Vous avez quatre chromosomes différents ici. Eh bien, lorsqu'on a des mutations de OXD, vous avez des modifications. En rouge, c'est ce qui est perdu, d'accord ? Et vous avez des mains totalement anormales chez les homozygotes, chez les hétérozygotes aussi. Mais lorsque vous avez des mutations multiples qui touchent OXD11, OXD12, OXD13, vous avez des modifications majeures au niveau des mains, et ainsi de suite, j'insiste pas. Vous pouvez avoir des seins dactylies ou des seins polydactylies, c'est-à-dire des mains qui correspondent à des doigts collés ou des doigts surnuméraires. Et puis, là, ici, vous avez une main avec 6 doigts, c'est-à-dire un système où vous avez des doigts surnuméraires. Chez la souris, on a exactement le même type d'éléments. Ici, ça touche le OX3 de la souris, OXA3 et OXD3. Vous voyez que vous avez OXA3 et OXD3. Lorsque vous avez une mutation sur OXA3 et OXD3 qui fait que vous avez une mauvaise expression de ces éléments, vous avez une modification de la première vertèbre qui devient une vertèbre tout à fait normale, comme les autres, et qui ne soutient plus correctement le crâne. Alors, je ne vais pas insister sur la thalidomide parce que Jean-Louis Fischer a déjà pas mal parlé de la thalidomide. Ça, c'est un élément qui a une grande importance dans la compréhension de ces mécanismes. La thalidomide, qu'est-ce qu'elle faisait ? C'est que, la thalidomide, elle agit en fait au niveau du bourgeon, comme on l'a vu tout à l'heure, des membres. Ce bourgeon des membres est sous la dépendance d'un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs diffusibles, hein, comme les FGF ou comme ce facteur qui s'appelle Sonic Hedgehog ici, et qui permettent le développement en fait du bourgeon de membres pour créer en fait le système tel que vous l'a décrit Jean-Louis. En fait, j'ai fini, oui, j'ai quasiment fini. En fait, ce qu'on a, c'est que le système avec la thalidomide va tuer en fait cette zone ici, les cellules de cette zone, et empêcher le système de se développer. Donc vous allez perdre en fait la capacité de développement. Mais ce qui est intéressant, c'est pas l'amélie, parce que l'amélie, c'est la disparition complète, parce que la mort cellulaire a été tellement forte, parce que l'exposition a été prolongée, mais dans les expositions relativement courtes, en fait, vous avez un système qui va récupérer la possibilité de développer quand même un membre. Mais vous avez perdu du temps dans le programme, et du fait d'avoir perdu du temps dans le programme, en fait, vous ne développez que la fin du programme. Et c'est pourquoi ces enfants ont des mains qui sont au bout de membres atrophiés. D'accord ? Donc un système qui cherche quand même à récupérer le programme. Le programme se développe malgré tout, mais évidemment avec une temporalité qui n'est pas la bonne. Je termine avec un élément. Il n'y a pas que les gènes Hox dans la vie. Il y a également des mutations qui peuvent toucher d'autres types de... Pour faire des monstres, on n'est pas obligé d'utiliser les gènes Hox, hein. Vous avez des mutations qui touchent d'autres types d'éléments. Ici, c'est une mutation ponctuelle qui a été obtenue par des chercheurs dans les années 70 sur une mouche sur laquelle ils faisaient de la mutagénèse aléatoire. Et ils ont remarqué que dans la mise en place de l'œil de la mouche, vous avez en fait l'œil de la mouche est constitué d'une série, vous voyez, d'éléments comme ça qui sont positionnés les uns par rapport aux autres. J'ai terminé, c'est ma dernière diapo. Donc ce système crée en fait 8 cellules qui sont des photorécepteurs qui ont une spécificité pour un panel de longueur d'onde de lumière différente. Donc la mouche est capable, avec ces différents éléments, de voir un certain nombre de choses. Ils sont aperçus que la mouche avait en fait perdu, à cause de cette mutation ponctuelle, une de ces cellules, la septième, ici, et qu'elle ne voyait plus les UV. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici un œil de mouche normal, et là, vous avez l'œil de la mouche qui est anormal. Cette mouche, ils l'ont appelée sevenless, parce qu'elle avait perdu le récepteur numéro 7, et donc, on l'appelait sevenless. Sevenless a donc un œil absolument monstrueux. J'ai cherché, malheureusement, je n'ai pas retrouvé. J'avais vu des images de Sevenless il y a une vingtaine d'années. C'est une horreur absolue. C'est véritablement un monstre, au sens propre du terme. Et Sevenless, en fait, eh bien, c'est un récepteur. Ce récepteur, eh bien, vu la mouche, il faut évoquer Frankenstein. C'est-à-dire qu'immédiatement, les chercheurs qui ont pensé à Sevenless, ils ont pensé à Frankenstein. Parce que cette mouche était vraiment horrible. Et quand ils ont cherché des partenaires de Sevenless, et en particulier, puisque c'est un récepteur, le ligand de ce récepteur, ils ont trouvé le ligand de ce récepteur. Et le ligand de ce récepteur, eh bien, comment est-ce qu'ils l'ont appelé ? Eh bien, ils l'ont appelé en fonction des films qu'ils avaient vus dans leur jeunesse. Eh oui ! Ils l'ont appelé Bride of Sevenless. Et voilà. Donc, vous avez ici un récepteur qui s'appelle Sevenless, et vous avez le ligand de ce récepteur qui s'appelle Bride of Sevenless, comme dans le film. Et puis ils ont été plus loin, ils se sont dit on va chercher d'autres éléments un peu en aval pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on a activé ce récepteur. Et là ils ont trouvé un certain nombre de protéines, dont celle-ci, qu'ils ont appelée comment ? Et voilà, Son of Sevenless. Donc vous avez ici une cascade d'événements qui conduit ensuite à la transcription de nouveau. Vous avez des facteurs de transcription ici. Donc un système qui est un système de signalisation tout à fait classique qui, en fait, rapporte à la question des monstres et donc à la mise en perspective du travail des scientifiques avec finalement toute la culture que nous avons dans la vie réelle, en fait. Il faut bien comprendre que, en particulier, les chercheurs en drosophile sont des gens pas tout à fait normaux, et que donc on a véritablement une population là qui a une imagination sans bornes. Il y a des sites sur Internet que je vous conseille qui permettent d'avoir les noms de ces mouches les plus amusants possibles. Voilà, j'en ai terminé.
Bien, donc merci beaucoup. Alors de communication finalement, donc pas forcément donc complémentaire, mais en tout cas donc convergente. Là, la première qui était une sorte de grande fresque comme ça sur les monstres, et puis la deuxième qui nous expliquait tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on avait toujours rêvé de savoir sur les gènes Hox. Et vous voyez d'ailleurs la transcription donc visuelle permettant de résoudre en partie donc l'énigme. Alors évidemment, on pourrait aussi se poser une autre question par rapport à l'image qui a été présentée donc juste avant, parce qu'elle n'est pas résolue, ça correspond encore à une énigme. C'est pourquoi Frankenstein est-il toujours représenté dans 90% des cas avec une couleur verte? Voilà, donc là, c'est une énigme. Deux fois, il a une autre couleur, mais dans l'immense majorité, c'est une couleur verte. Voilà. Donc là, c'est une énigme à résoudre, mais peut-être avez-vous des questions, des compléments, donc des interrogations, des témoignages, des précisions Oui.
Si, mais moi, j'ai une question sur à Nicolas. Étant donné qu'on sait repérer... C'est-à-dire qu'on peut créer des monstres, en fait. Est-ce qu'on peut intervenir à ce niveau-là?
On peut créer des monstres, bien sûr, oui. Ah, pardon.
Oui, oui, on peut créer des monstres, bien sûr. Mais l'idée, évidemment, pas de créer des monstres. Je pense que personne ne cherche à créer des monstres en tant que tel. Je veux dire, c'est pas le but. Par contre, je pense que y a des recherches qui s'intéressent à revivifier ces programmes de manière à éventuellement recréer des organes, recréer des membres éventuellement pour permettre à des gens qui ont eu, comme les lézards qui perdent leur queue, retrouver finalement un membre perdu. Donc là, il y a certainement des objets de recherche tout à fait fantastiques à imaginer, oui. Oui,
oui, une question?
Merci. Ma question, c'est que reste-t-il, vous avez un peu distingué le monstre et la monstruosité, ou que reste-t-il de monstrueux une fois que la science a fait son travail? Vous avez essayé d'en réintroduire un petit peu à la fin en disant que l'imaginaire des scientifiques s'inspirait du monde fantastique, mais c'était assez flagrant dans l'exposé de Jean-Louis Fischer qu'en fait, une fois qu'on a traduit les créatures qui hantent les colonnes romanes en des monstruosités tératologiques bien identifiées, tout ça paraît quand même assez maîtrisé, dompté, l'imagination en furie qui produit des monstres est bien domestiquée. Donc la fonction de l'activité scientifique sur la domestication de l'imaginaire monstrueux?
Oui, moi je pense que l'imaginaire n'a pas besoin des explications. Les explications, en plus, je pense qu'on rentre dans des domaines où la complexité, les concepts sont d'une difficulté majeure, et expliquer ces modifications au niveau moléculaire dans chaque cas, de toute façon, est probablement mission impossible. Parce que vous avez toujours une conjonction d'éléments génétiques et d'éléments environnementaux. Les choses sont obligatoirement liées. Donc, de toute façon, ce n'est pas parce que vous allez avoir un enfant qui a telle mutation que l'autre enfant à côté qui a la même mutation va générer exactement les mêmes symptômes. Donc, de toute façon, vous allez vous retrouver dans une situation où le système nous échappe quelque part. D'autre part, si on parle d'imaginaire, l'imaginaire a depuis largement dépassé. Quand j'ai parlé des X-Men tout à l'heure. Les X-Men sont une fabrication tout à fait extraordinaire de l'utilisation de la notion de mutation, puisqu'on a bien des mutants. On nous le dit dès le début de ce comics, hein, qui date des années, du début des années 50. Vous avez un système où les mutations sont établies comme étant la cause des modifications que subissent les personnages, mais on est dans l'imaginaire formidable avec la mise en place de personnages qui ont des capacités que la génétique ne pourra jamais mettre en place. Il est très clair qu'on est là dans un univers totalement fantastique. Donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout pour l'imaginaire et du fait que la science, à un moment donné, tue cet imaginaire. Je n'y crois pas du tout, du tout, du tout.
Au contraire. La science a toujours nourri l'imaginaire, que ce soit en science-fiction, en fantastique. Des gens comme Lovecraft étaient aussi passionnés par tout ça. Ouais. Et c'est tant mieux.
Pour répondre à des questions qui s'étaient posées sur le ver, Frankenstein est vert. Mais il faudrait savoir quand est apparue cette couleur verte chez Frankenstein. Parce que le premier, enfin, s'il peut ressembler à un humanoïde martien, si les Martiens sont verts, ça date du créateur de Tarzan, dont là, j'ai perdu tous les noms maintenant. Le créateur de Tarzan, dans la princesse de Mars, le Martien est vert. Et pourquoi il est vert? Et pourquoi, alors, il y a un physiologiste au XVIIIe siècle qui a posé la question, mais pourquoi les hommes ne sont pas verts? Et pourquoi ils sont blancs? Pourquoi il y en a des noirs? Pourquoi il y en a d'autres couleurs? Et lui, la grande théorie, qui était celle du pouvoir d'imagination de la femme enceinte sur le fœtus, avait dit, s'il y avait eu une femme, quelque part, dans le monde, qui avait aimé la couleur verte, elle se serait imprégnée de cette couleur et le fœtus aurait été imprégné de vert et nous aurions une génération d'hommes verts.
Oui. Voilà, c'est encore la faute des femmes.
Une possibilité.
Oui, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les essais par rapport aux hybrides, dans quel but pour les hybrides, quel est le but de ces essais?
C'était le but de pouvoir fabriquer des organes pour des greffes, hein, c'était ça, hein, c'était surtout... Mais on a eu cette idée déjà dans les années 20-30 avec un médecin qui s'appelait Voronov qui faisait des greffes aussi. Et son idée était aussi de quelque part de produire des animaux pour pouvoir avoir des greffes. Donc c'est quelque chose qui date de loin, mais qu'on arrive aujourd'hui à une technologie qui est quand même... c'est inquiétant ou pas, j'en sais rien, mais si on arrive à faire là pour l'instant on prend du cytoplasme de vache, on met un noyau fécondé humain dans ce cytoplasme et on doit arrêter au 14e jour, mais si on continuait une gestation, on aurait un humanoïde qui aurait à peu près 99% de patrimoine humain et 1% de patrimoine de vache. Mais que ferait ce 1% de patrimoine de vache?
Je sais que ça a échoué jusqu'ici, mais ils ont essayé aussi avec les mammouths sur des ovules d'éléphantes et de réinsérer le génome d'un noyau de mammouth. Donc, mais ça ne marche pas. C'est...
Heureusement, oui, sans doute.
Alors moi, j'avais une question pour chacun de vous deux. Alors, pardon si je formule les choses de manière trop imprécise. Je regarde mes notes. Donc, la question à Jean-Louis Fischer, c'était, alors, est-ce qu'on a compris pourquoi la cellule de l'oursin se régule et pourquoi celle de l'acidie ne fait pas pareil? Et alors, la question à Nicolas, c'était par rapport à cette photo étrange du bébé Shiva à quatre membres. Donc, tu nous as parlé justement de gènes qui s'expriment de manière ectopique avec déplacement, mais ça n'explique pas le mécanisme de la prolifération. Donc quand il y a quatre membres, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé ?
Concernant l'isotropie, c'est-à-dire un œuf qui peut réguler et l'anisotropie, un œuf qui ne sait pas réguler, c'est dans le patrimoine de... L'acidie, c'est ce qu'on appelle... c'est une espèce d'organisme qui a juste... Comment on appelle ce... Le concombre de mer, voilà. C'est le concombre de mer, voilà. Alors, il y a des centaines d'espèces, il y en a qui font quelques millimètres.
C'est un organisme qui a une antéro-postériorité.
Oui, oui, tout à fait.
Un organisme qui a une antéro-postériorité. Du coup, il y a une nécessité de mettre en place cette antéro-postériorité, alors que chez l'oursin, il n'y a pas.
Oui, mais c'est peut-être pas suffisant pour...
C'est sûrement pas suffisant.
Non.
C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais le fait que chez l'oursin, il n'y a pas la nécessité de mettre en place cette antéro-postériorité fait que quand on retire une cellule, globalement, elle n'a pas besoin de créer... on n'a pas perdu la capacité de créer. On va peut-être avoir des oursins plus petits.
Oui.
Mais
ah oui, ils sont plus petits. Bien
plus
sûr,
petits,
sont plus petits, oui.
Mais à la fin, l'orientation globale ne pose pas de problème.
Mais on a chez le cténophore, je ne sais pas si tu connais le cténophore, qui est aussi un invertébré, qui a des palettes ciliées. Il a 8 palettes ciliées, et au fur et à mesure qu'on retire un blastomère, il perd une paire de ses palettes ciliées. Donc, comme si au départ toutes les palettes étaient déjà imprimées et le fait de diviser, de la division, ça sépare ces palettes. Mais c'est un phénomène très particulier.
Et Shiva ? Alors le bébé Shiva, moi j'ai pas l'explication hein, parce que j'ai trouvé ça dans un cours, ça vient d'Inde, hein, donc j'ai trouvé ça dans un cours sur YouTube par un professeur de biologie moléculaire indien. J'étais assez sidéré parce que j'avais encore jamais vu ce genre de choses. C'était un cours sur les gènes Hox, donc voilà pourquoi. Très clairement, pour moi, la problématique, elle est identique à ultrabithorax. C'est-à-dire que là où on crée une mouche qui a deux thorax l'un derrière l'autre, par le fait que ultrabithorax s'exprime de manière ectopique, à la place d'un des segments abdominaux. Donc on a un des segments abdominaux qui disparaît, mais à la place, on a un deuxième thorax qui se met en place. Ben là, c'est un peu la même chose. On a en fait une localisation ectopique, mais ça peut arriver même avec des bras normaux d'avoir des bourgeons qui ne sont pas au bon endroit, et du coup, l'implantation des bras est anormale. Donc vous avez, de fait, là, dans le cas présent, c'est probablement le démarrage ectopique de cette prolifération. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de répondre à cette question.
Autre question, interrogation, témoignage, hein, si on ne sait pas, mais oui.
Moi, ma question serait plutôt, vous allez me prendre pour un savant fou, mais j'ai eu une conversation avec un ami qui est passionné de biologie de génétique, et il m'a formulé l'hypothèse qu'on était capable de créer une véritable licorne. Et justement, je pense que cet exposé prouve du coup ce qu'il me disait, même s'il n'avait pas les connaissances pour me l'expliquer, puisqu'on sait quel code placer. Et donc, est-ce qu'on pourrait véritablement créer, avec cette connaissance, une licorne, par exemple, en utilisant un code de Nerval pour la corne?
Si on savait exactement qu'est-ce qui crée la corne, oui, mais pour l'instant, ces programmes sont quand même... vous l'avez vu, c'est des programmes d'une complexité monstrueuse.
Oui, oui.
Vous avez un nombre de gènes qui doivent s'exprimer à un endroit précis, et ils sont liés les uns aux autres, vous l'avez bien compris. Mmh. De ce fait, j'ai un peu de mal à penser qu'une équipe de chercheurs serait en mesure de faire ça. Déjà, il faudrait qu'ils trouvent l'argent pour le faire, ce qui serait peut-être déjà la première question à se poser. Il faudrait trouver des gens suffisamment intéressés ou suffisamment fous pour se lancer dans un programme comme ça. Pour moi, c'est extrêmement compliqué, vraiment extrêmement compliqué.
Donc au mieux, on pourra créer une chimère, c'est ça ?
Une chimère, oui, éventuellement, mais encore.
Et encore.
Chimère. Il faudrait que cette chimère soit viable, parce que la plupart des chimères ne sont pas viables.
D'accord.
Si vous voulez créer une licorne, vous prenez, comme vous dites, une dent de... Pas de marsouin, de... De Nerval, voilà. Mmh. Prenez une dent de Nerval, puis vous la collez.
Vous la collez, d'accord.
C'est moins fantastique visuellement, quand même.
En utilisant ça, on a réussi à remettre des dents dans un certain nombre de mâchoires d'oiseaux, par exemple. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de faire ce genre de choses.
D'accord. J'aurais une question aussi pour Monsieur Fischer, mais du coup, mes exigences viennent de tomber à la baisse. Enfin, mon imagination est tombée à la baisse plutôt, parce que j'imaginais après votre exposé qu'on était peut-être capable de faire de la, paléontératologie sur l'homme lui-même, pour retrouver entre guillemets, pour reproduire l'image de nos ancêtres qu'on a perdu, puisque leurs fossiles se sont soit dégradés, essayer de retrouver les gènes qui auraient formé leur visage, tout simplement. Et visiblement, déjà qu'on n'arrive pas à faire des licornes, quel dommage. Alors, un crâne authentique de Néandertal ou de l'homme de Louzon ou quelque chose du genre, je pense que là, je rêve.
Je pense, oui. Peut-être un mutant qui reviendrait.
Juste pour rebondir là-dessus, d'abord, en fait, la dent de narval collée sur un cheval pour faire une licorne, ça existe un petit peu, en fait, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, dans la Grande Galerie de l'Évolution, il y a un dodo empaillé, et en fait, si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est une chimère, en fait, qui a été faite à partir de restes de différentes choses pour donner l'illusion de ce qu'était un dodo, parce que j'étais très surpris de voir un dodo empaillé, donc voilà. Et la question de finalement pourquoi un cheval avec une corne collée sur la tête est moins impressionnant qu'un cheval qui naîtrait naturellement avec une corne, on peut se poser la question, par exemple, sur la figure du cyborg, qui est le monstre à la fois organique et mécanique. On imagine toujours que la greffe mécanique doit se faire dans la chair, mais en fait, ça se fait beaucoup plus efficacement avec un casque ou une interface externe, quoi, qu'on peut déposer. Donc peut-être qu'ici, il y a notre propre imaginaire de la fusion de la chair à quelque chose d'autre qu'il faudrait interroger. Et puisque je viens de parler des cyborgs, je reviens sur ma première question indirectement. J'ai bien entendu l'appel, effectivement, à conserver notre regard d'émerveillement sur la science. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire à faire sur la manière dont chaque science produit ses propres monstres et comment, par exemple, Frankenstein, pour parler de lui, est le produit de la science de l'électricité et du magnétisme ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a quand même une petite guéguerre qui a lieu entre les scientifiques et les littéraires, on va dire, puisque le terme a été bien avancé par M. Bourmeister, mais au sens où, par exemple, le concept de cyborg, il a été créé pour promouvoir le voyage dans l'espace dans une revue d'astronautique. Et quand, dans les années 80, il y a eu des fictions de cyborg, comme Terminator, par exemple... Eh bien, on a interrogé le créateur du néologisme en lui disant « Qu'en pensez-vous ? » Et il a considéré que c'était des échappées monstrueuses, justement, de l'activité scientifique qui était, elle, à l'abri de tout ça. Donc, quand je parle de Geiger, c'est au sens où est-ce que les créatures de fiction sont l'émanation ensauvagée des conceptions rationnelles des laboratoires, ou est-ce que les conceptions rationnelles des laboratoires sont elles-mêmes
l'expression d'une fantasmatique beaucoup plus large et qu'on ne chercherait pas les gènes du développement Ox et autres s'il n'y avait pas au départ la figure de Shiva ou ces figures étonnantes et monstrueuses.
Ouais, moi, je vais répondre un petit peu, une réponse de Normand, bien que je ne sois pas du tout Normand. Je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme je l'ai montré, les scientifiques ont une véritable imagination et sont mangés par l'imaginaire de leur époque. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un aller-retour entre les fictions, les mythologies, les éléments de la vie courante qu'ils rencontrent et leur travail et la façon dont ils abordent leur travail. Mais d'un autre côté, évidemment, la fiction se nourrit de science. Je parlais tout à l'heure des X-Men. C'est pas un hasard si les X-Men apparaissent à la fin des années 50. Les X-Men, c'est typiquement lié à l'émergence de la notion d'ADN, de la notion de mutation, qui est une notion qui, dans les années 40, n'existait pas. Qui savait ce que c'était que l'ADN dans les années 40 ? Personne. Je veux dire, l'expérience d'Avery, qui est l'expérience qui montre que c'est l'ADN qui est le support de l'information génétique, expérience fondamentale, elle date de 44. Donc on est dans un système où on a avant ça aucune, et de toute façon Avery il a été contesté jusqu'à la fin des années 40. C'est seulement lorsque Watson et Crick démontre que c'est bien l'ADN et qu'on a tout un système derrière qui va se mettre en place que les choses commencent à avancer. Mais avant l'ADN, vous regardez dans la Rice Burroughs, vous regardez Conan Doyle, vous regardez même Lovecraft et compagnie, ces gens-là ne parlent jamais d'ADN, ils savent même pas ce que c'est. Je veux dire, on est donc dans un imaginaire qui ne peut pas se nourrir de quelque chose qui n'existe pas. Il est obligé de fabriquer à partir de ce qu'il a. Voilà.
Mais il y a des mutants sans ADN. C'est-à-dire, il y a des mutants avant l'ADN, en fait. Il y a des mutants dès la fin du 19e siècle et il y a toute une littérature proliférante dans les années 30 sur des mutants et même la mutagénèse.
Oui.
Mais donc, en fait, l'ADN, ça vient...
Mais parce qu'on savait, parce que la génétique avait montré qu'on pouvait faire des mutations, mais on ne savait pas sur quoi on agissait. On disait, il y a des mutants, on sait faire des mutants. On irradiait, on avait des mutants. Donc on savait. Mais pour autant, est-ce que l'explication, on ne l'avait pas. On savait seulement que ça marchait, qu'on pouvait faire de la mutagénèse, effectivement.
Oui, comme j'expliquais là tout à l'heure, à propos du terme de monstre, les généticiens, en particulier Richard Goldschmidt, dans les années 30, inventent le terme de monstre prometteur. Hein, c'est-à-dire, c'est le monstre qui va permettre, c'est le mutant, en fin de compte, qui va permettre... Donc il y a ce concept de monstre qui est bien là. Mais on pourrait aussi parler des extraterrestres qui sont des monstres extraordinaires aussi. Et E.T. en particulier, moi j'ai fait une tératologie de E.T. De la tête aux pieds, ce ne sont que des formes tératologiques. Il est anencéphale, il est synophthalme, il est ectrodactyle, enfin il a... Alors, est-ce que l'inventeur l'a fait en sachant ce que ça existait ou c'est un hasard ? C'est... Voilà.
Oui, encore une question ?
Bonsoir. Merci pour tous les exposés de cette journée. Notamment ceux qui traitent de l'imaginaire et ceux qui traitent de la science. Mais ma question rejoint les remarques précédentes. Alors, question ou remarque, est-ce que la science moderne ne serait pas en fait créatrice de monstres, bien plus que par le passé, où j'ai eu le sentiment, en tout cas à travers les conférences de tout à l'heure, que la monstruosité du passé était plutôt un reflet de l'âme, de défauts moraux, de vices, etc., donc qui se projetaient vers l'extérieur, Et j'ai le sentiment qu'en fait, la science moderne, avec la découverte de toutes les possibilités justement de l'ADN, souhaiterait au fond, sans se l'avouer, alors avec bien sûr plutôt un objectif médical, mais souhaiterait au fond, est-ce que c'est pas très humain, créer des monstres ou recréer ces monstres fabuleux, comme la question de la licorne tout à l'heure, en voir des êtres de chair et de sang qui seraient, pourraient dépasser donc les frontières de l'humain, de l'animal, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une envie? On voit le succès du monstre du Loch Ness, par exemple, cette quête sans fin qui fait qu'on cherche, on sait qu'on court après une chimère, mais il y a une envie de voir ces êtres bouger devant nous. Donc on est allé, j'ai l'impression, vers l'extérieur, d'une symbolique morale, liée plutôt au défaut de l'âme, vers une fascination pour des caractéristiques monstrueuses extérieures. Donc la science qu'elle souhaiterait peut-être, sans le dire, produire, ou qu'elle produit par accident avec des médicaments, des molécules, sans forcément maîtriser tous les tenants et aboutissants. Voilà. Merci.
On ne pense pas que la science ait envie de faire vraiment des monstres, à moins que vous pensiez aux hybrides, bien sûr, là, qu'est-ce que ça va devenir. L'idée de créer des monstres, comme vous... Ah, voilà. On a des monstres typiques, le monstre du Loch Ness, le Yeti, ou d'autres. Vous avez remarqué, ils sont toujours tout seuls. Parce que le monstre ne se reproduit pas. Hein. Vous savez, depuis Aristote, quand il définit le monstre, c'est celui qui diffère de l'homme, du père. Donc le premier des monstres, c'est la femme. Ah oui. Un vrai monstre ne se reproduit pas. Parce qu'il demeure, en vue de quoi? La femme est utile en vue de quelque chose. Parce que le monstre, lui, ne se reproduit pas, donc il est inutile. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait envie de créer des monstres. Je ne sais pas.
Pour essayer de répondre à votre question, effectivement, on sent dans l'actualité, par le biais d'un certain nombre d'informations qu'on a de la Silicon Valley en particulier, de tous ces multimilliardaires qui se sont créés, qu'il y a la volonté d'un transhumanisme, donc la volonté de transformer l'humain pour en faire autre chose. Donc l'idée de créer les conditions en y mettant beaucoup d'argent pour à la fin obtenir un allongement de la vie, une meilleure résistance à un certain nombre d'agressions, une capacité à faire des choses qu'on ne savait pas faire, par exemple du sport, avec un certain nombre de gènes qu'on va pouvoir vous insérer, qui vont permettre à votre myoglobine de beaucoup mieux absorber l'oxygène et donc ensuite d'être beaucoup plus efficace au niveau... On a fait des races de chiens là, récemment en utilisant justement par des transgènes qui ont une capacité musculaire beaucoup plus importante. Et la question qui se pose effectivement, c'est de savoir s'il n'y a pas des gens qui pensent à faire ça chez les humains pour obtenir des sportifs beaucoup plus compétitifs. Et donc là, on n'est même plus dans le dopage. Là, on a dépassé totalement tous ces éléments. Donc oui, ces éléments, ils existent. On le sait, il y a des scientifiques que je qualifierais pas de fous, parce qu'ils ont des objectifs qui sont totalement anti-éthiques, mais en même temps, je veux dire, on sait très très bien que l'être humain est un être d'une curiosité sans nom, et que dès qu'une possibilité s'ouvre, ben finalement, on a tendance à aller dans ce sens-là, même s'il y a des résistances morales, des résistances éthique, déontologique et tout ce que vous voulez, à un moment donné, les barrières finissent toujours par sauter, parce que la technologie permet de faire des choses que jusque-là, on ne pouvait pas faire. Alors l'exemple le plus épouvantable est probablement ces petites filles chinoises là qui sont nées de ce gynécologue qui a fait une modification avec CRISPR-Cas9 de leur génome en leur permettant en fait de en leur supprimant l'expression d'un récepteur qui est le récepteur du virus du sida. Alors le problème, c'est que ce récepteur, eh bien, il ne sert pas qu'à la réception du virus du sida. Il a d'autres fonctions. Et que donc, enlever l'expression de ce récepteur de manière définitive chez ces enfants risque d'avoir des conséquences que personne ne mesure. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, une fois de plus, on est avec des apprentis sorciers, puisque les dernières évaluations de la méthode CRISPR-Cas9, qui a commencé à devenir relativement aisée dans les laboratoires, montrent que, en fait, cette méthode qui était soi-disant extrêmement spécifique et qui ciblait des gènes très particuliers par le biais de la technologie soi-disant sécurisé, en fait, on s'aperçoit que quand on l'utilise, y a des choses qu'on ne voit pas. On fait des choses qu'on ne voit pas et on supprime parfois des bouts de génome qui sont totalement invisibles. Et puis, lorsque on étudie les cellules qu'on a transformées ensuite, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a perdu une fonction. Et on ne sait pas très très bien pourquoi ça a touché ces endroits-là. Donc, on est encore, de toute façon, comme toujours, avec des apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils ont la technique qui leur permet, mais les gens font n'importe quoi. Alors, vous n'empêcherez jamais ce type de personne de faire ce genre de conneries et de se lancer dans des programmes totalement délirants. Il y aura toujours quelqu'un avec suffisamment d'argent pour mettre de l'argent sur la table pour faire ça. Mais moi, j'ai quand même confiance dans la façon dont on dispose d'un certain nombre de techniques depuis quand même maintenant une bonne trentaine d'années. On ne peut pas dire que, par exemple, la technique de fécondation in vitro. Bon, il y a eu des excès. On a eu une femme de 65 ans qui a eu, en Italie, il y avait un médecin qui faisait qui avait permis à une femme de 65 ans d'avoir un enfant pour sa fille. Bon, je veux dire, mais enfin, c'est un cas isolé. Vous voyez bien qu'on n'est pas non plus dans quelque chose qui se met en place de manière insidieuse et qui, petit à petit, devient la réalité. La pression de notre éthique, de notre façon de regarder le monde et la façon dont nous vivons fait que ces éléments-là restent quand même des cas isolés. Moi, je ne suis pas si inquiet que ça sur l'avenir de la science et la capacité qu'elle a de... Elle va créer des monstruosités, c'est évident. D'accord ? C'est évident. Mais ça restera des cas isolés. Ça restera des cas isolés parce que de toute façon, nous sommes des apprentis sorciers. Nous ne maîtrisons rien. D'accord ? Que les choses soient claires, nous ne maîtrisons rien. On parlait des licornes tout à l'heure. Vous allez vouloir mettre une corne à un cheval et vous allez vous apercevoir que vous allez lui faire des malformations cardiaques monstrueuses qui fait que de toute façon, il va vivre un an et puis c'est fini. Donc, vous voyez, je veux dire, les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. On a la biologie... C'est véritablement de la complexité à un niveau qui est extrêmement difficile de penser. On ne le pense pas. On a une difficulté fondamentale à penser la complexité de cette biologie.
Et sinon, pour voir des licornes, il faut aller au château d'Oiron, où il y a le musée d'art contemporain, où il y a une licorne, donc, comme la création en fait, du dodo au muséum de Paris. On va clôturer pour cet après-midi et je remercie donc Frédéric Chauveau pour l'animation et la maîtrise du temps, Nicolas Bourmeister, Jean-Louis Fischer et Richard Guérino. Et donc vous êtes invités à un buffet qui est à l'étage et on reprend avec Que reste-t-il du monstrueux avec Thierry Hoquet et je vous dis à tout à l'heure.